Yes, my lord.
Excellent.
Very impressive.
Here we go!
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast What the Duck. On est en quoi ? On est en juillet 2016 et on se retrouve pour parler de nos actualités sur le jeu vidéo. Alors ce mois-ci, autour de moi, gros bonjour.
Salut tout le monde.
Patoun, ça va ?
Ça va, vous m'avez manqué le mois dernier.
Oh là là, sur on le va 3. Pleurer dans deux minutes.
Red, sur ton smartphone, déjà sur Pokémon Go ?
Ouais, attends, je réponds un tweet.
Tu réponds un tweet, ça va ?
Ça va très bien, vous.
Seb, comment
toujours
as-tu ?
Très bien, toujours.
La forme.
Toujours là, ouais.
Eh bien, écoutez, on se retrouve ce mois-ci pour parler de plusieurs choses. On a un programme chargé, comme d'habitude, avec les news de Patoun. On va revenir sur quelques petites choses complémentaires sur YouTube, etc. Vous allez nous. On va voir ce qu'il y a à dire. Et sur nos chroniques, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci ? On a Inside, on va parler de Inside, le nouveau jeu du créateur de Limbo. On a la saga Total War qui s'agrémente d'un nouveau titre sur l'univers Warhammer.
Et bizarrement, on a fait appel à Gros pour en parler.
Voilà, qui s'est absenté deux mois.
C'est pour avoir un avis objectif, je déteste ce genre de jeu.
Là, tu t'es un peu enfermé pour nous faire un bilan complet. On a Never Alone, un petit jeu, Seb, c'est toi qui vas nous en parler.
Oui. Très très beau jeu.
Petit jeu sur les Inuits, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Très très beau, documentaire et jeu en même temps, le lien entre les deux.
Et puis un petit retour sur Mirror's Edge Catalyst qui est sorti le mois dernier. On va pouvoir en parler. Mais tout de suite, les Telex de Patoun.
Donc, il n'aime pas.
Ah, ok.
Je préfère comme ça.
T'aimes pas être dominé ?
On commence les news estivales avec un grand soulagement pour les joueurs qui attendent No Man's Sky. Le jeu est gold et pourra bien sortir le 10 août prochain. C'est un grand soulagement pour Sean Murray aussi, qui n'aura plus à subir les menaces de mort des joueurs énervés par le précédent report. Et si il faudra attendre début 2017 pour jouer à Resident Evil 7, les joueurs ont de quoi patienter avec la démo qui est disponible depuis le 14 juin sur le PlayStation Plus. Cette dernière remporte d'ailleurs un joli succès avec plus de 2 millions de téléchargements, soit à peu près autant de sous-vêtements souillés. On reste dans les success stories avec Pokémon Go, qui grâce à son succès a fait grimper l'action de Nintendo de 9%. Le carton est tel que le jeu génère à lui seul plus de trafic internet que YouPorn. Et oui, Pokémon est plus fort que le porno. Cependant, les serveurs ayant du mal à suivre la cadence, la sortie européenne du jeu a été repoussée. Pour information, vous pouvez adresser vos menaces de mort à monsieur Miyamoto Shigeru. Retour en 2011 avec Skyrim qui reviendra cet automne dans une édition spéciale remasterisée. Le jeu original ayant fait l'objet de mods visuellement impressionnants, Digital Foundry s'est amusé à faire un comparatif entre la version de 2011, équipée de tous les derniers mods, et les images du remaster diffusées lors du dernier E3. Et c'est un match nul. Un peu comme Evolve, qui reprend un peu du poil de la bête après son passage en free-to-play. En effet, suite au changement de modèle économique, le nombre de joueurs a augmenté de 13 630%. Dit comme ça, c'est plutôt pas mal. Gageons que le dernier Total Rock rencontre enfin le succès qui lui est destiné. Et nous terminons ces news avec une initiative assez cool de la part de Microsoft qui va prochainement permettre aux joueurs de mettre leur avatar dans un fauteuil roulant.
Yeah, pourquoi pas. On rebondit sur quoi, Seb ?
Moi, sur Resident Evil, le 7 que j'ai fait aussi, je suis une des
ça
personnes.
Ça t'intéresse ?
Et ça m'intéresse beaucoup. Mmh. Ça fait un peu. C'est plus de l'action, c'est vraiment. Ça fait un petit peu Survivor Horror à la version Silent Hill. Et ça me plaît beaucoup.
En fait, c'est un retour aux bases de la série.
Voilà, hein, c'est ça. Les premiers étaient comme ça. Donc, et ça me plaît. Autant les derniers m'ont pas plu du tout, je les ai même pas fait.
Le 5, le 6, c'était pas ta cam. T'avais joué au 4 sur GameCube ?
Oui, j'ai fait 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4, les canoniques.
Voilà, c'est ça.
Red, toi ?
Moi quoi ?
Tu rebondis sur quoi ?
Sur quoi je vais rebondir ?
Sur la mini NES.
Encore.
Non, peut-être.
Pokémon Go, c'est ton truc ?
Ah oui, voilà, sur Pokémon Go,
tu adores, hein, je crois que c'est tu l'as déjà.
Alors Pokémon Go, c'est quoi? C'est la nouvelle sensation là, c'est le nouveau phénomène, mais qui est pas encore sorti en Europe. C'est ça que tu me disais, Seb.
Pokémon Go, c'est le nouveau Flappy Bird, sauf que c'est marketé par Nintendo. C'est une boîte qui a eu la magnifique idée de faire un jeu développé sur des cartes Google Maps augmentées par des participants. Et bon, je crois qu'ils ont, je sais pas qui a demandé à qui d'ailleurs. Est-ce que c'est cette boîte qui est allée vers Nintendo pour avoir la franchise Pokémon, ou est-ce que c'est Nintendo qui a eu l'idée? Mais vous regarderez si ça vous intéresse. En fait, c'est la même chose. Vous allez marcher dehors, et puis en fonction de vos petites balades, vous trouvez des petits Pokémon. Donc,
il va falloir.
Le truc qui est difficile dans ce genre de choses, c'est
augmenter.
À titre personnel, mon intérêtomètre est à zéro.
Oui, comme moi. Mais...
Et le problème, c'est que qu'il y a des millions de gens qui y jouent, je vais avoir des millions de fans contre moi.
Mais c'est un concept qui existait déjà. Il y avait un jeu où il y avait deux équipes bleues et rouges qui pouvaient prendre comme ça des points sur la carte en réalité augmentée. Ils zonaient autour de la tour Eiffel pour prendre le point de la tour Eiffel, etc. Non,
aucune idée.
Ça vous dit rien?
Tu nous apprends des choses.
Gaël m'en avait parlé.
En tout cas, c'est ce qu'on peut quand même souligner, c'est que ça reste un vrai phénomène de société. Ouais. On en entend parler partout, jusque dans c'est les candidats de la présidentielle américaine.
Il faut avouer qu'il y a déjà beaucoup qui se lance sur les smartphones, c'est un succès.
Oui, sauf que c'est pas Nintendo qui se lance sur les smartphones, c'est Nintendo qui laisse son autorisation et sa licence à une société qui est sur smartphone. Mais ce qui est visible, c'est que c'est très utile à la marque Nintendo. Ça s'est vu notamment en bourse. Avec une cotation relevée à la hausse très très claire.
Parmi ceux qui gagnent de l'argent sur ce jeu-là, Nintendo fait partie de ceux qui en gagnent le moins dans les jeux.
Bien sûr.
Oui, parce que ils gagnent les royalties.
Ceux qui gagnent le plus, c'est Google et Apple.
Mais tu pars encore une fois, c'est ce que je te dis, sur le jeu. En tant que tel, sur les ventes de jeux, mais de façon indirecte, vu que l'action Nintendo a pris énormément, Nintendo gagne beaucoup d'argent.
Mais concrètement, par rapport à Pokémon Go, l'idée est très simple, c'est très basique, mais adapter ça à la licence Pokémon, c'est juste génial. On est plus devant son écran, on est vraiment un dresseur de Pokémon.
Non, maintenant la question, c'est de savoir est-ce que ça va durer dans le temps, ou est-ce que ça va disparaître au bout d'un mois. C'est ça en fait l'idée. Est-ce que ça va continuer?
Ça va se répercuter en tout cas sur les ventes du prochain Pokémon, c'est sûr. Toi, tu disais que Nintendo gagnait pas de sous là-dessus, mais ça remet le...
Non, c'est pas Toon qui disait ça. Moi, je dis Nintendo gagne des sous dessus indirectement.
Oui, moi je parlais par rapport aux jeux indirects, où il y avait les actions.
Après, c'est toujours compliqué de parler d'un jeu qui nous fait rien. Ça pourrait être n'importe quel titre. Là, il s'agit vraiment de Pokémon, hein, qui est une licence ultra connue.
Oui, c'est un peu ça. Du coup, moi je reviens sur Evolve, tu en avais parlé, donc qui a explosé, qui est passé en stage 2. C'est-à-dire, ils ont patché le jeu, ils l'ont mis en free to play, c'est-à-dire il est gratuit. Ils ont enlevé, avant il était payant, fallait l'acheter à 40€. Et à l'intérieur, il y avait une politique dégueulasse de microtransactions pour acheter des skins. Etc.
D'ailleurs, je voulais vous demander, vous l'avez acheté?
Oui. On l'avait acheté. Ouais.
Ça, vous le prenez comment, qu'ils sont en free to play maintenant?
Bah écoute, de toute façon, on y retournait une fois tous les 6 mois pour voir qu'il y avait 300 joueurs connectés maximum.
C'est pour ça que les mecs qui restaient. Augmentation de 31 000%, c'est à 31 600 joueurs.
Les chiffres sont déconnants. C'est-à-dire, même c'est passé à 25 000%, parce que maintenant il y a 1 million de joueurs actifs sur le jeu. Et même Steam le pousse parce que ça lui fait un superbe jeu compétitif gratuit où il n'y a plus de microtransactions et qui a été beaucoup modifié depuis qu'il est sorti. C'est-à-dire que les parties. C'est quoi les gros changements aujourd'hui? Le jeu est plus facile, vu qu'il est passé en free-to-play, il est plus accessible. Les parties qui duraient 20 minutes, donc c'est la chasse, il y a un prédateur, il y a une équipe de 4 qui le chasse, les parties de 20 minutes sont passées à 12 minutes. Elles sont beaucoup plus dynamiques, c'est-à-dire avant on rencontrait parfois une fois le monstre à la fin du combat, quand il était passé en évolution 3, il y avait une grande fight qui se passait bien ou pas. Maintenant il y a plusieurs fois, il y a plusieurs rencontres pendant la partie en 12 minutes, donc ça dynamise vachement les parties. Et puis là, il est en free-to-play et ça rend accessible à tout le monde un jeu qui a été patché et repatché avec beaucoup de DLC qui étaient payants, des nouveaux monstres, des nouveaux personnages de caractère, etc. C'est-à-dire là, si vous l'achetez, si vous le téléchargez, vous téléchargez 20 Go, vous avez 6 monstres plus 1, je crois, mais qui est payant, c'est le seul truc payant du jeu, avec les skins, etc. Et puis, l'équipe de 4, chaque rôle assigné dans l'équipe de 4, c'est-à-dire le chasseur, le tracker, le médic, et le dernier qui a ouais, sûrement enfin,
bref, donc il vaut le coup bref, alors ou pas
c'est, voilà, ouais, attends, parce que, non mais attends, tu nous détailles le jeu, on en a déjà parlé. Là la version free to play, toi tu la trouves mieux déjà dans ouais, en
elle
l'état.
Est plus dynamique.
Elle est plus dynamique.
Elle est plus apéritif pour l'apéritif, c'est-à-dire c'est des parties de 12 minutes, t'en enchaînes 2-3 puis t'arrêtes.
D'accord.
Parce que tu après c'est suffisant.
Et comme mais t'as demandé Patoon, le fait que toi tu l'aies acheté et qu'il soit passé en free to play alors qu'il y avait
trois palettes dessus, sinon, il était perdu. Moi, ça m'est égal. C'était il y a 2 ans quand même. Il n'est pas passé free to play après 4 mois.
D'accord.
De toute façon, le jeu, on a eu une déception qu'on a. On a ravalé notre estime de soi depuis un an et demi.
Et le portefeuille. Voilà.
Mais il faut savoir que c'est la bêta stage 2. Le jeu, le jeu est toujours en bêta.
Ah bon,
il est repassé au stade de bêta avec son passage en free to play.
Bien. News suivante. Alors moi, je voulais revenir sur comment est-ce qu'un jeune achète un jeu vidéo aujourd'hui. Je retrouve
un jeune. C'est précis.
Un jeune. Alors nous, quand on était jeunes, qu'est-ce qu'on faisait?
Non, mais on est toujours
jeune. Le petit Maxime là qui veut acheter un jeu à l'époque. Alors à l'époque, le petit Maxime.
Regardez la jaquette.
Il achetait la presse. Nous, on achetait la presse.
Déjà, il taxait ses parents.
Ses parents, mais disons pour se renseigner, j'ai un petit peu de sous. C'est Noël, je vais pouvoir taxer mes parents pour Noël. Qu'est-ce que je fais? À l'époque, on ouvrait un magazine, on se renseignait. Mais bon, assez rapidement, les gens se sont rendus compte que la presse, c'était des vendus, quoi. C'était des corrompus, quoi. C'était sûr, quoi. Les mecs sympathisaient avec des développeurs, etc. C'est fou, quoi.
Donne de l'argent aussi.
Donc après, la génération d'après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, il y avait les sites internet, des petites équipes qui se montaient, qui travaillaient au jour et nuit pour monter un site internet gratuit. Mais bon, clairement, c'était des vendus, quoi. C'était des corrompus aussi. Ça n'allait pas, quoi. Donc aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont,
ils écoutent What the Duck.
Ce qui est déjà pas mal.
Et puis aussi, les jeunes, devant tout ce monde de corruption, qu'est-ce qu'ils font? Les jeunes, bah, ils vont voir leurs idoles sur YouTube, des mecs qui n'ont pas fait forcément d'école de journalisme, qui n'ont forcément pas une version de l'éthique et de la morale très haute, mais bon, eux, c'est sûr, c'est des joueurs, c'est des gamers, c'est sûr, eux, on peut les écouter, c'est la sacro-sainte parole, quoi. C'est ce qui est arrivé à des petits Maximes comme ça, fin 2014, pour Noël, il y en a beaucoup qui ont regardé des vidéos YouTube, et notamment sur le jeu Shadow of Mordor, c'est-à-dire l'ombre du Mordor. Un jeu de Warner Bros, un jeu à la troisième personne, un jeu d'action-aventure. Et bon, ils ont pu comme ça se renseigner sur ce titre-là, notamment avec des vidéos de PewDiePie.
On te voit venir quand même maintenant.
Ouais, on sait, on voit venir.
C'est marrant, les vidéos, elles sont sympas, ça a l'air pas mal. Ça a l'air un peu répétitif quand même. Mais bon, PewDiePie, il disait non, c'est pas répétitif.
C'est génial.
Ah oui, c'est bien quand même. Mais le monde a l'air un peu vite. Les quêtes ont l'air un petit peu quand même. Les quêtes ont l'air un peu FedEx, toujours les mêmes. Non, PewDiePie, il te dit que le jeu, franchement, il est varié. Ça fait 60 heures qu'il y joue, qu'il faut l'acheter, que c'est un bon titre, etc. Donc bon, finalement, le petit Maxime, il a demandé à ses parents de lui acheter le jeu. Et on se rend compte aujourd'hui que Warner Bros. A des poursuites judiciaires au cul, parce que le gendarme américain de la concurrence, la FTC, lui a demandé pourquoi est-ce qu'il avait payé ses youtubeurs pour que ces youtubeurs parlent du jeu en bien, pour que les youtubeurs, le studio... Alors, on s'est rendu compte aujourd'hui que Warner Bros. Avait le final cut sur le montage et que les youtubeurs devaient notamment inciter les followers à acheter le jeu contre des contreparties financières envers des youtubeurs. Alors, il y avait...
En résumé, c'est de la publicité déguisée, hein, on est d'accord?
Voilà, masqué. Hein.
C'est ça que tu veux dénoncer?
Absolument, je voulais dénoncer ça. Absolument.
Mais la publicité déguisée, ça n'a rien de nouveau. On voit ça beaucoup en France, sur des chaînes YouTube, notamment.
Oui, sur des sites internet.
Mais il faut le dire, alors. Là, c'était pas dit, c'était caché.
Puis ça coûte quand même moins cher de payer des youtubeurs que de développer un bon jeu.
Ouais. Allez, non, news suivante.
C'était ça ta news?
C'était rapide.
De quoi?
Non, mais il lance un jingle quand il veut couper la parole.
Ah, d'accord.
Ah, tu voulais revenir? Vas-y, c'est
excuse-moi. Non, c'était juste pour dire qu'en fait, le partenariat avec une société de jeux vidéo, c'est pas ça le plus grave, c'est de pas le dire. C'est que ça soit mis sur le côté. Il faut appuyer sur une petite croix en haut à droite de l'écran pour.
Mais je crois que sur YouTube aujourd'hui, tu as les moyens d'afficher que.
Oui, oui, exactement.
C'est un partenariat.
Oui, mais c'est ça en fait. Ils ont joué avec ça. C'est-à-dire comme les règles n'étaient pas bien écrites en fait dans la loi, ils ont pu le mettre caché dans un coin, appuyé sur une croix, appuyé sur un petit lien qui était en dessous de l'écran pour pouvoir où il y avait une fenêtre où il y avait noté qu'il y avait partenariat avec Ubisoft ou avec une autre grande société. Et là, c'était pas fait.
Bon, ils ont pris les thunes, ils ont rien
et
dit.
Et voilà, ils ont rien dit, ils sont tués.
À
ont...
toi, le jeune,
il y a quand même
qui nous écoute.
5,5 oui, millions de vues sur ces vidéos-là alors qu'elles étaient sponsorisées quoi par l'éditeur.
Voilà, c'est ça. Voilà.
À toi le jeune qui nous écoute.
Fais attention.
Ne crois rien de ce que tu entends et la moitié de ce que tu vois.
Voilà, c'est ça.
Sauf
fais ton propre avis. Tu peux y aller.
News suivante.
News.
Seb, tu voulais nous parler de...
Bah, je crois que j'ai le même avis que Red, c'est la mini NES classique qui va arriver le 12 novembre, où c'est une petite NES, alors le capot de la Nintendo 8-bit qu'on avait dans les années 80, et on a 30 jeux préinstallés à l'intérieur. Donc...
C'est la NX, enfin.
La NX est déjà de retour.
Voilà.
Moi, en tout cas, ça me fait très plaisir. Je sais qu'il y en a qui vont dire, oh là là, 60 euros pour des jeux très moches qui n'ont pas tenu avec les années. Ben, c'est pas grave. Moi, j'ai vécu dans ces années 80. J'ai eu ma première console, c'était la NES. Et donc, je suis très content. Moi, j'ai pas racheté ces jeux-là. Donc, évidemment, les gens qui ont acheté ces jeux-là sur console virtuelle, ils ont peut-être les boules. Mais moi, 60 euros pour avoir 30 jeux et en plus, pas si mal que ça.
Hein. Attends, on a pas mal.
Non, mais ça nous étonne pas que tu sois pour. Moi, la question, enfin, tu vois, je préférerais poser la question à GP
ou
à
oui,
Patoon parce que
oui,
toi,
oui,
d'accord. Toi, la rigueur, enfin, ça t'intéresse pourquoi? Parce que tu l'as déjà, la NES.
Oui, je sais que je l'ai déjà.
Donc, tu as déjà la NES, t'as déjà peut-être des émulateurs, mais non, parce que toi, t'aimes pas les émulateurs. Donc, ça va te servir à quoi si t'as déjà ta NES?
Mais on n'a pas les 30 jeux. Les 30 jeux, c'est d'avoir.
Ah, t'as pas les 30 jeux, donc tu vas l'acheter pour son catalogue.
Ah oui, c'est ça, exactement.
Moi, je vais l'acheter par flemmardise.
Et ça marche.
Pour pas avoir l'ancienne Nintendo.
Oui, parce que c'est joli, il y a les prises HDMI,
c'est
accessible.
C'est
accessible, bon, ça coûte 50 euros, on a 30 jeux pour 50 euros.
T'as une manette? T'as deux manettes?
Une seule manette.
Ça marche avec les anciennes manettes?
Non, une seule manette, mais avec les.
Je sais pas comment marche le
multi
dessus.
Comment?
En fait, vous avez les manettes de la Wii U Pro. Qui peut être branché dessus.
Ah oui.
Et il y a une manette design NES qui va ressortir aussi.
Voilà.
Et elle est
pas trop cher, j'espère. Non. En fait,
donc...
le truc, c'est que tu achètes la console et les 30 jeux 50 euros, et pour jouer à deux, il faut acheter une Wii U.
Non, non, non. C'est-à-dire que si tu as déjà les manettes Wii ou Wii U, tu peux déjà les utiliser comme deuxième manette. Sinon, tu peux racheter séparément une deuxième manette, mais avec la figure, avec le design de la première manette de la NES.
Et la manette elle coûte 120 euros.
Sérieusement, moi, je trouve ça super cool parce que bon, là, Nintendo sont clairement dans l'idée de nourrir leur marque, dans l'idée de rappeler un petit peu l'histoire.
Ouais,
c'est vraiment la possibilité pour un gamer aujourd'hui, pour le prix grosso modo d'un jeu, de se replonger dans cet univers qui a été fondamental dans l'histoire du jeu vidéo. Et il y a la plupart des grands jeux de la NES qui sont dispo sur la cartouche. Final Fantasy, Super Mario et consorts, les Zelda, Duck Hunt, Metroid. Bon, voilà, c'est génial.
Alors,
quoi.
J'ai vu sur les commentaires qu'il y avait même des parents qui avaient des nouveau-nés, des nouveaux gamers, et ils vont acheter cette console pour montrer à leurs enfants qu'est-ce que jouait leur père ou leur mère à leur âge. Donc c'est plutôt, il y a côté historique qui marche très bien. Je crois qu'ils ont compris qu'il y avait une frange des gamers qui sont très contents de qu'on leur rappelle un petit peu leur jeunesse.
Après, c'est intéressant d'avoir ton avis, Patoon, parce que justement, j'ai pas vu beaucoup d'avis négatifs sur le sujet de ce petit bonus là que nous offre Nintendo avant Noël.
T'as un avis positif ou négatif?
Histoire de sortir une console pour Noël, d'ailleurs, encore une fois.
Oui,
ouais,
c'est vrai.
C'est juste clairement.
Mercantile, c'est le côté mercantile.
Le côté mercantile et qui me gêne un peu. Surtout que je vois pas vraiment l'intérêt en soi, vu que. Enfin, pour le consommateur d'acheter ça. Parce que tout est déjà disponible. Tous ces titres sont déjà disponibles via émulateur, via. Et soit.
Mais pas pour le même prix. Si je devais acheter tous ces titres sur le marché rétro, où il faudrait
alors,
une grosse console,
alors,
tu vois.
Cartouche, pas possible, mais en console virtuelle, ça doit coûter 4 euros à chaque fois, donc tu les dépasses sur les 30 jeux.
Une console ou il te faut un PC. Là, on est vraiment à la frontière du jouet, je trouve. Ça se prend sur une téloche. Ouais. Tu peux laisser ça dans la main d'un gamin,
ça y est,
pas de problème. Quoi.
Puis il peut s'amuser avec.
C'est sûr qu'on n'est pas dans les techs d'aujourd'hui, là, on est d'accord.
Ouais, non, c'est pas ça.
C'est pas
truc,
une PS4 ou une One.
C'est juste une ressortie d'un produit. Tu sais, en soi, c'est pas une mauvaise chose que ça sorte, mais que ça fasse tant de bruit.
Parce que les
pour
gens,
moi, ça vaut pas tout le. tout le bruit qui est fait autour de ça.
Bah, peut-être que s'il y a du bruit, c'est que les gens l'attendent.
Je sais pourquoi tu bloques. C'est parce que dans la liste des jeux, il n'y a pas Project Cars.
Voilà. Ouais, ouais, peut-être.
S'il y avait des downgrades, ce serait plus intéressant.
Non, non. Non, mais c'est vraiment. C'est pourtant, il n'y a rien de neuf, quoi, en fait.
C'est pas grave.
C'est ça le truc. C'est un produit qui sort, mais pour moi, il y a.
Avant la NX One Mars, ça fait une petite.
C'est pas ce que j'attends de Nintendo, en fait.
Ah oui, toi, voilà.
Clairement.
Moi, oui, t'es pas le marché, t'es pas le public visé, quoi, peut-être.
Ah non, mais clairement pas.
Pourtant, c'est ça,
visé.
Nintendo,
le
c'est ça
visé,
aussi. Hein.
Clairement, c'est vous deux, les.
Les, vas-y, sors le mot, vas-y.
Les rétro gamers, c'est ça.
Les rétro gamers, on va
les
dire.
Vieux.
C'est qui veulent se rappeler leur jeunesse. Moi, la NES, je l'ai.
Tu l'as jamais eu?
Je l'ai jamais eu. J'étais né à l'époque. Voilà. J'ai joué à la NES.
Eh ben voilà, t'as répondu à la question.
Et Seb, toi, tu crois que ça va se décliner dans plusieurs consoles?
Alors, il y en a certains qui l'ont dit, et je pense que s'il y a un bon retour sur cette, si c'est pas gadgets, parce que on sait que la Nintendo, ils font bien la qualité au niveau du design, des choses comme ça. S'il y a une qualité derrière, ça casse pas.
Enfin,
ça,
ils font bien
ils
la qualité.
Ils n'ont pas
le design de la Wii U, hein, évidemment.
Spécialiste en plastique, quand même. Hein, faut pas non plus.
Oh non, moi, les 3DS, les DS, elles sont de bonne qualité. Moi, elles ont jamais pété, donc. Ça passe bien.
C'est pas parce que leur a coûté la conception du produit.
Voilà, non, la conception elle a rien coûté, ça c'est vrai. Mais si ça marche bien, on peut s'attendre à avoir une Super NES classique avec 30 jeux aussi, qui serait très bien. J'ai
une
ma
mini GameCube.
Ou une GameCube peut. Ouais, pourquoi
c'est peut-être
pas
les mêmes composants.
Voilà, c'est ça. C'est pas les mêmes composants.
Il y a peut-être pas autant de monde qui a kiffé la GameCube aussi.
Oui, mais ça peut peut-être donner envie à certains qui n'ont pas eu la GameCube d'avoir un petit 30 jeux comme ça rapide à mettre sur sa télé. Non, ça peut peut-être fonctionner.
On peut pas faire une mini Wii U parce qu'il n'y a pas 30 jeux, donc.
Non, il y en a 29. Non, voilà, non, c'est moi je
non,
pense
mais en
que
tout
plutôt...
cas, ils jouent la carte de la nostalgie à fond parce que même l'emballage de la petite boîte de la console qui fait une
référence.
Taille de la main hein.
Oui
c'est,
non mais fait référence aussi
j'ai
fait
pas
référence,
j'ai pas du tout préparé papier mais il y avait pas une mini Mega Drive qui était sortie
oui mais il y a longtemps
ans,
non mais il y a
non c'était
longtemps.
Pas une Mega Drive c'était une console une Neo Geo qui était ressortie
oui il y a eu la Neo Geo mais il y a eu aussi okay. La Mega Drive il y a eu
Mega
même
Drive
deux rééditions
aussi.
De Mega Drive en petit où il y avait des jeux préinstallés à l'intérieur mais qui étaient pas génial.
Oui, parce que t'étais pas Mega Drive.
Si, pourtant.
Ok,
si.
Bon.
On peut passer.
On verra.
En tout cas, on verra si les gens vont l'acheter.
On passe aux chroniques ?
Yes.
Et on va commencer par une ambiance feutrée, c'est toi Patoun qui va nous parler d'Inside, petit jeu d'aventure assez court mais assez intense.
Assez court, oui, c'est 3-4 heures de jeu pour le finir en ligne droite, mais très intense et très marquant surtout.
Et on meurt beaucoup quand même, hein, faut le dire. Hein.
Moi,
l'héritage de Limbo.
Ouais. Voilà, c'est Playdead qui a fait ça, qui s'était fait connaître avec Limbo en 2010, si je me souviens
2011.
Bien.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Un studio suédois, non?
Danois, je crois bien, oui, je ne me suis pas renseigné plus que ça sur le studio.
Ouais, d'accord. T'as bien fait ton taf aussi.
Aussi, oui.
Tac dans les dents.
Voilà, donc on se retrouve. L'héritage de Limbo est bien présent. On retrouve le même setup, c'est-à-dire un jeu de plateforme 2D où on incarne un petit garçon qui fait face à des menaces plus ou moins claires.
Il n'y aura pas de spoil hein, dans ta chronique.
C'est une ambiance assez lugubre. C'est quoi?
Très lugubre. Ouais. Alors. Pour faire le comparo avec Limbo, qui lui était noir et blanc, mais vraiment dark, ici, c'est un jeu développé donc sur Unity, qui est en full 3D, pour ce qui est de la modélisation, donc sur le procédé du cel shading, ce qui fait que ça donne un petit côté un peu cartoon, mais avec des éclairages et des choix de couleurs très, très ternes, ce qui fait qu'on a vraiment une ambiance par moment
étouffante.
Étouffante, voire limite glauque.
Oui.
Limite glauque par moment. Il y a des endroits, il y a des sections de jeu où on n'est pas très bien, quoi.
C'est ça.
Clairement, on se dit, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que je fous là, bordel?
Et où on va?
Faites-moi sortir, bordel!
J'éteins la console.
Voilà, c'est. C'est vraiment, on est un petit garçon sans défense dans une. Qui essaye de s'évader de quelque chose. On comprend pas forcément de quoi au début.
Il y a des gens qui te recherchent.
Si, très rapidement, on comprend.
Peut-être on est poursuivi ou
On est poursuivi.
Ah, donc... c'est un hommage à Evolve ou pas du tout?
Non, rien à voir avec Evolve.
Rien
à voir. Là, on parle d'un bon jeu.
Oh.
Ouais, j'avoue, c'était bas.
C'est...
Donc j'ai perdu le fil du coup. Donc on est poursuivi. Il y a tout un petit jeu au début où il faut qu'on alterne entre discrétion et rapidité. Ce qui donnera beaucoup quelques scènes de mort, notamment je pense il y a des chiens vers le début du jeu.
C'est aussi morbide que pouvait l'être Limbo dans les Game Over ou...
Ouais, il y a.
Enfin, dans les Game Over, dans les morts.
Tu meurs en te faisant bouffer par des chiens, tu vas voir, c'est sale. C'est ça. Enfin, c'est sale, pas dans l'image. C'est juste que le jeu s'attarde sur ta mort, en fait. Et tu vois les chiens continuer à
déjà
te bouffer,
dans les
mais si
les...
tu vois pas le sang, c'est malsain.
Les fatalities sont assez violentes.
Voilà.
Bon, la direction artistique, elle est très bonne. Oufissime, comme on dit, quoi. Elle est vraiment hallucinante.
C'est une vraie peinture.
C'est magnifique.
Alors, en fait, voilà, par rapport à Limbo, qui lui était un 2D, là, le passage en 3D pour Inside leur permet des mouvements de caméra.
On est en train de perdre
ouais.
GP.
Ouais, on est en train de GP.
Il s'est étouffé quand t'as dit que c'était de la 2D Limbo, alors qu'il y avait des scrollings différentiels, de la profondeur de champ. Oui, c'était déjà de la 2-5D, mais c'était non, pas de la full 3D.
Inside, c'est vraiment
full
3D.
Ouais, j'entends bien.
Voilà. Donc, il y a des mouvements de caméra.
Juste, t'as dit que Limbo, c'est de la 2D. Okay. Alors, c'est de la 2,5D.
Bon, c'est du...
Allez, 2,7 et on n'en parle plus.
Allez, 2,5D, ça va. J'ai oublié le 2,5. Excusez-moi.
Il y a des fois, le gameplay, il y a une diversité de gameplay aussi. Des fois, de temps en temps, on ne fait pas que aller à droite ou aller à gauche. Des fois, on
oui,
peut...
Oui, j'y viens. Laisse-moi finir.
D'accord, excuse-moi.
Laisse-moi
Vas-y.
Finir. Donc...
Je vais être un peu tatillon, mais finalement, Inside, c'est aussi de la 2,5D. Vu qu'on est sur un seul plan. C'est en 3D, mais on se balade que sur un seul plan.
Je parle de la modélisation. Là.
Bon, et on va laisser.
Suis un
les
peu ce que je dis, bordel.
Oh, c'était intéressant pour toi.
Oh, je retourne m'étouffer. Donc, c'est mieux. Voilà.
Donc, la modélisation est donc un full 3D qui permet des mouvements de caméra. Il s'écarte, il se rapproche, mais aussi il prend de la hauteur. Et ça leur permet une mise en scène qu'ils ne pouvaient pas faire avec Limbo. Voilà. Et c'est réussi. Vraiment, c'est maîtrisé. Ils n'en ont pas fait des caisses avec ça. Ils ont fait quelques mouvements à droite à gauche, mais vraiment pour donner de l'ampleur au jeu.
C'est de la mise en scène, quoi.
Voilà, et c'est une réussite totale. Franchement, le jeu, il est beau. Dans le macabre, il est beau. Il raconte quelque chose.
Oui, il est intelligent, c'est un joueur intelligent.
Il est très intelligent. Il pousse le joueur à la réflexion.
Ouais, c'est ça.
Red ici présent va me tuer si
il va aimer.
Plus. Il va pas en dire plus.
Il vous pose des questions et clairement c'est une réflexion qui restera avec vous après avoir fini le jeu. Voilà. Et
ça marque en fait.
Quand tu le mets en comparo avec Limbo, parce qu'on a du mal à ne pas le faire. En plus, je crois avoir compris que les développeurs eux-mêmes s'étaient amusés à pousser un peu le comparatif entre leur précédent jeu et celui-là. Est-ce que tu penses que Playdead sont en train un peu de créer quelque chose d'un peu nouveau justement dans ce style narrativo-platformer
Nouveau, je sais pas.
T'avais déjà vu ça ailleurs, toi?
Non, mais j'ai pas tout vu non plus. Donc,
mais dans Limbo...
je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, c'est extrêmement réussi.
Enfin, les mecs, on n'entend pas parler à chaque fois qu'ils arrivent avec un truc. Bon, là, le titre était très attendu,
ouais.
Mais à part un trailer qu'on a vu, je crois, l'année dernière, ouais. À l'E3, il y a rien qui se passe. Le jeu sort, il est encensé de partout, il se prend des méga notes. Tu l'as testé chez Gamop, toi?
Ouais.
Tu lui as mis combien?
La note maximale.
D'accord.
Bon, c'est clair.
2/2.
Ah, vendu ou pas vendu?
Pas vendu, non. Ah, pas vendu. C'est un jeu, voilà, qui se termine en 3-4 heures. Moi, si vous avez l'envie de faire le jeu, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de le faire en une traite. Faites pas comme moi. Moi, j'ai coupé la partie, ouais. Ça m'a sorti. Résultat, la deuxième session, ça a duré 10 minutes, j'avais fini le jeu. Mm-hmm. J'ai rien compris. Mais clairement, voilà, c'est un jeu, le gameplay il est basique, il se joue avec deux boutons, très clairement. Vous allez à gauche ou à droite, puis vous avez un bouton pour sauter, un autre pour vous accrocher à des objets et les tirer, et c'est tout. Mais avec ça, ils arrivent à raconter une histoire, à trouver des idées de gameplay intéressantes, et vraiment à...
C'est comme Limbo, c'est toujours un gameplay un petit peu avec un moteur physique qu'on utilise.
La gravité, il y en a moins quand même.
Ça joue moins sur la physique.
Voilà, c'est ça.
Plus, ouais. Les énigmes, ça se joue plus sur l'observation, en fait. Parce que Limbo, il y avait vraiment...
Ouais, les yeux, quoi.
ouais, vraiment des skills à avoir.
Ouais,
par
c'est
moment.
Ça, exactement.
Là, c'est une fois que vous avez tous les éléments, que vous avez trouvé tous les éléments de l'énigme, la solution, elle va plus ou moins de soi. Et après, c'est juste de l'application bête et méchante, quoi. Une fois que vous avez un mécanisme, vous voyez ce qu'il fait, tac, tac. S'il fait ça, il y a ça que ça implique. Donc, ouais, il faut que je fasse ça c'est... à tel moment pour arriver à
là,
ça.
Là, ce que tu nous as décrit, c'est ce qui se passe dans ton cerveau quand t'es
ouais,
dans
voilà, c'est d'accord. Ça, ouais.
Moi, j'ai trouvé Inside.
Ben, j'essaie de pas trop en dire, c'est compliqué.
Et j'ai trouvé qu'Inside était plus facile que Limbo. Limbo, je me suis vraiment arrêté bah, dans
c'est
certains...
ce qu'on a voilà. dit, ouais, tout à l'heure.
C'est ça.
Ouais,
J'ai passé plus de temps à Limbo à me creuser les méninges que sur
Moi, j'ai bloqué
Inside.
Quelques fois, hein.
Non, mais là clairement, les énigmes, c'est pas ce qui va vous bloquer.
Voilà.
Vraiment. Si vous bloquez, c'est qu'il y a un élément que vous n'avez pas trouvé.
Ouais.
Ah
vous n'avez
oui,
pas trouvé. Si vous l'avez pas trouvé, forcément, vous n'allez pas avancer. Mais non, clairement.
Là, tu veux dire, c'est pas des difficultés de plateformeur, quoi. C'est pas.
Il y a des moments où quand même, il y a du challenge, notamment. Enfin, je pense que
non,
tu vois de quel passage je parle.
Voilà, non, faut pas en parler.
Il faut un bon timing.
Ça.
Il faut un bon timing, il y a des mécanismes à déclencher au bon moment pour pouvoir passer sans se faire dégommer. Mais
Et le sound design était, il est bien aussi parce que dans Limbo, moi, c'est un truc qui m'avait complètement marqué.
Tout est parfait en termes de DA. En termes de DA, tout est parfait.
Je me rappelle pas du son Je me rappelle plus du son.
Dans Limbo.
Dans
Inside.
Ouais, dans Inside.
C'est parce qu'il
y en a pas.
Je te dis ça parce que de faire à chaque fois le comparatif avec Limbo, mais
c'est
dans Limbo il y avait une musique qui était carrément calquée sur le game design.
Non, c'est pas ça.
Il y avait une musique où t'avais
oui, oui,
dans Inside, la plupart du temps, il y a pas de musique.
D'accord. Moi, donc c'est assez silencieux.
C'est assez silencieux. Sound design est vraiment impeccable.
Oui, c'est ça.
Et la musique qu'elle apparaît, c'est vraiment à certains moments clés. Et c'est vraiment quelque chose d'assez lancinant.
Ça coûte combien?
Ouh là là, c'est une quinzaine ou vingtaine d'euros.
Ah bah on reconnaît les journalistes.
15 ou 20 euros.
C'est 15 ou 20 euros.
C'est 20 euros sur PC, je crois sur console c'est 15 euros.
Je sais pas s'il est sur PC.
Si.
Oui.
Enfin, tu dis sur console, sur One quoi, parce que pour l'instant il est
sur One.
Je crois qu'il est à 19,99 sur Steam.
Et sans spoiler quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas comme ça ici. Hein,
non.
Mais Limbo, le titre avait une résonance assez forte dans le jeu. Et Inside, est-ce qu'il y a un quelconque rapport avec ce qu'on trouve dans le jeu? Ça veut dire quoi, inside? Ça veut dire à l'intérieur?
Non, mais tu veux dire, est-ce que tu spoil le jeu en expliquant le titre?
Dans l'interprétation.
Est-ce qu'à la fin, tu comprends mieux le titre qu'au début?
C'est philosophique.
Dans l'interprétation que moi j'ai de l'histoire du jeu, inside.
C'est à l'intérieur de soi, en fait. C'est des réponses qu'on doit citer.
Ce serait plutôt outside le titre le plus.
Oui, parce que c'est un escape. Tu parles d'escape.
Ouais,
donc.
Ce serait plutôt.
C'est une fuite
plutôt
en avant.
Dans l'interprétation que j'ai du jeu. Après, mm-hmm. Le jeu, il est soumis à interprétation. Il pousse le joueur à se poser des questions.
Ah oui,
mais après, chaque joueur pouvant trouver des choses différentes.
Pas l'analyser jeu, différemment.
Les questions qu'il se posera seront pas forcément les mêmes. Voilà, moi mon truc c'était par rapport à notre système de société, à notre société actuelle.
Mais,
comment ça fonctionne.
C'est ça qui est bien, c'est ça.
Notre modèle de société.
En tout cas, t'as raison d'insister sur la mise en scène parce que toi t'as insisté sur la mise en scène de la caméra, du positionnement de la caméra. Mais de la même façon, comme il n'y a que deux boutons sur ce jeu, c'est-à-dire avancer et sauter, il y a beaucoup d'événements un petit peu scriptés qui sont déterminés en fonction de ce bouton. Il n'y a pas par exemple plusieurs vitesses de course. Et j'avais vu dans une vidéo par exemple le personnage court et puis il court jusqu'à une falaise depuis laquelle il va sauter. Donc en fait c'est à peu près déterminé qu'en une seconde 8 il va arriver à la falaise puis sauter s'il continue à appuyer sur avant. Et en fait le développeur fait en scène que les chiens court derrière le personnage pour forcément arriver. Il y a plein d'éléments comme ça pour arriver au bord de la falaise en même temps que le personnage. À ce moment-là, le personnage saute. Et il y a plusieurs fois des événements très presque. Il n'y a rien de très linéaire, quoi, finalement, mais qui augmente l'immersion comme ça.
Le jeu est d'une simplicité apparente. Il y a une simplicité, une certaine élégance.
Mais c'est très travaillé.
Mais il y a un souci
dans les timings.
Il y a un souci du détail à tous les niveaux, que ce soit à ce que tu viens de dire, mais également au niveau des décors, pour dire aux joueurs, mettons attention, il y a peut-être un truc là qui est pas net, un petit élément du décor auquel on ne fait pas.
Un objet qui clignote.
Non, même pas. C'est vraiment des éléments du décor qui sont pas mis en avant. Donc, il est très facile de passer à côté, mais quand on fait un second run, on le voit.
Ah oui.
Et on se dit, ah ouais, merde, il y avait ça, j'aurais pu savoir, j'aurais pu ne pas me faire avoir, là. Ah oui. Bordel.
Il y a des indices, quoi.
Voilà, il y a toujours des indices.
Il y avait une patte d'araignée derrière l'arbre.
Ouais.
J'aurais dû le savoir.
Bon, bah, clairement, tu recommandes et on recommande.
Ah, je recommande de chaudement.
Sur Xbox One et peut-être PC. Du journalisme.
Bientôt sur PS4. Ouais.
Merci, Patoun. On enchaîne avec la deuxième chronique. Il s'agit de Total War. Warhammer, et gros, après plusieurs mois de, d'immersion Inside, nous
oh,
revient,
transition
revient parmi nous.
Il a travaillé ça.
Un dossier complet sur la saga Total War. Tu vas nous parler un petit peu de cette saga de jeux de stratégie et de gestion.
Effectivement, bon, on pouvait pas passer sur un Total War, sachant qu'on n'a jamais parlé des autres. Je m'en étonne. Mais...
Scandale !
Mais c'est vrai que c'est pas une série que je connais
t'avais
forcément.
T'avais pas fait Total War Arena ?
Si, mais bon, c'est un l'opus à part quand même de la série.
C'est une saga pourtant qui existe depuis une quinzaine d'années. Quand même.
Le premier date des 2000.
Shogun
Total War. Mais après, il y a eu Total War Shogun 2. Bon, bref,
c'était compliqué. La
suite. C'est pour les initiés là.
Alors,
perdu, là.
La série Total War, c'est développé par Creative Assembly. C'est un studio anglais. Pardon, attends, je suis mal.
Tu veux te lever?
Amenez-lui
un pupitre.
Parle à la France, vas-y.
Voilà. Donc ouais, c'est un studio
ton,
anglais.
Il faut que ton diaphragme soit bien décompressé au
Exactement.
Niveau de la diction.
Voilà. Studio anglais fondé en 1987 qui s'est d'abord attaché à faire des portages de jeux sur DOS, Amiga et autres machines de l'époque, dont Shadow of the Beast, petite dédicace.
Merci.
Et FIFA à l'époque. Dans les années 94-95, ils se sont mis sur les jeux de sport, donc des jeux divers et variés, hein, football américain, des choses comme ça.
Tout ce qu'on adore.
Jusqu'au premier Total War en 2000, et ils n'ont quasiment fait que ça depuis.
Pour en vouloir, quoi.
Ouais, la diversité.
Quand t'arrives chez Creative Assembly, faut
voilà.
Vouloir.
Donc ils ont été rachetés également par Sega en 2005. Et voilà, et ils ont annoncé leur partenariat avec Games Workshop en 2012. Pour une sortie du jeu en 2016. La série Total War. Alors Total War, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu compliqué. C'est un wargame tour par tour et temps réel. Donc
attends. Tour par tour et temps réel ?
Voilà. Donc en fait, l'action de jeu se déroule plus ou moins en deux phases. Tu es lancé avec ta petite troupe de départ sur une map générale. Et donc ça se joue tour par tour sur la map. Et sur la map, tu seras amené à faire des combats qui eux joueront par contre en temps réel. Voilà la description succincte de tous les Total War qui apprennent tous le même mode de gameplay, bon, qui a été amélioré quand même au fur et à mesure des années avec des ajouts, des améliorations, etc. Donc Total War, c'est une série qui comporte quand même 10 opus.
En fait, c'est une formule qui peut être adaptée à énormément d'univers.
Et voilà. Donc, ça a toujours été très, très historique, très documenté. Ils y sont toujours attachés. Chaque opus, alors peut-être à part les premiers, ça je ne sais pas, vous avez toujours des infos historiques que vous pouvez récupérer sur les diverses troupes, unités, etc. Enfin, ça a toujours été orienté très réalisme. Tout en restant assez fun pour plaire quand même au plus grand nombre. Sinon, ça fermerait beaucoup de portes à un jeu qui n'a déjà peut-être pas un public fort développé. Donc,
c'est un euphémisme.
Non, mais c'est une niche.
Une niche.
C'est une petite niche, bien, mais en même temps, c'est ça. C'est un jeu qui a quand même une très bonne réputation quoi. Ouais.
Et les joueurs passionnés le sont et pour de bonnes raisons quand même.
Non.
je parlais des joueurs passionnés.
Ouais, t'inquiète pas.
Mais même, je sais pas si tu veux en parler. Vas-y, je te laisse.
Vas-y.
Même, je crois que sur certains documentaires, par exemple, pour les batailles romaines ou napoléoniennes, il y en a qui ont fait des reconstitutions en vidéo des grandes batailles.
Il est possible d'enregistrer ces batailles sans interface, sans rien, et de manière à rendre, et vu que c'est assez documenté, assez historique, de manière à rendre quelque chose de
Parce que la grande force de la saga, c'est d'avoir des milliers d'unités à l'écran.
Voilà. ça c'est la grande différence avec beaucoup d'autres jeux, c'est que bon, vous gérez votre armée avec une vingtaine d'unités, mais qui représentent chacune, suivant les races, entre 50 et 120 bonhommes.
Une centurie.
Donc vous avez vite... C'est-à-dire il y a des aliens, des...
Alors, ça va dépendre des séries. Donc, pour rester sur la série de base Total War, donc l'année 2000, vous avez eu le premier, donc Shogun Total War, qui prend place dans le Japon, où vous devez conquérir le Japon, devenir le Shogun, c'est-à-dire le maître du Japon. Ensuite, on est parti sur Medieval Total War, où là, on repart au Moyen-Âge. Ensuite, Rome Total War, qui était un grand succès, avec les campagnes de Jules César et tout ce qui peut en découler. Ensuite, en 2006, Medieval 2, et ainsi de suite. On est passé par Napoléon dans les années 2010. On est revenu sur un Shogun 2, on a refait un Rome 2, etc. Jusqu'à la sortie d'Attila en 2015. Donc, ce qui est assez récent, qui a été un bon succès aussi. Là, on sent un certain aboutissement dans le gameplay, dans tout ce qui est... Enfin, le jeu est vraiment très abouti à ce moment-là. Avec deux petites sorties annexes en 2015 également, vous avez Total War Battle Kingdoms, qui est un jeu cross-platform que j'ai vaguement essayé, mais je me suis très rapidement arrêté. C'est le même principe, mais en très simplifié, et étant donné que vous avez exactement la même chose sur votre téléphone et sur votre PC, j'ai pas trouvé ça très intéressant en fait. Et le Total War Arena dont on avait parlé dans un épisode précédent, qui était un free-to-play multiplayer fort intéressant et pour lequel il n'y a pas de date de sortie pour le moment.
Je crois qu'il est plus disponible.
Non, depuis février.
On en avait parlé, mais il est pas dispo. Quoi.
La bêta a été fermée vers février, je crois.
D'accord.
Donc voilà. Et jusqu'au 24 mai de cette année où est sorti ce fameux Total War sous licence Games Workshop, le Total War Warhammer. Donc contrairement,
c'est un peu comme Pokémon Go en fait, ce que tu nous racontes.
C'est la même chose.
C'est vraiment le même.
C'est
truc,
la même histoire
quoi.
En fait. Voilà. On a une série avec plein d'épisodes différents qui ont le même même gameplay.
Non, surtout basique. On a un gameplay, on adapte, ouais. On porte une licence dessus sur un gameplay existant. Non mais on disait oui, c'est pas ça pour te vexer, le système,
je cherchais la faille effectivement.
Il n'y a pas de critique.
Je pensais pas qu'on comparait Total War à Pokémon, mais bon.
En tout cas c'est vrai que Total War Arena a quand même permis à beaucoup de découvrir la licence, parce que moi j'ai toujours été intéressé, parce que techniquement c'est superbe.
On a toujours une campagne multijoueur sur Shogun 2 en cours.
Oui, voilà.
Depuis à peu près 5 ans.
Mais faut acheter le jeu à 50€.
Ça va. Il faut avoir envie de s'y plonger. Faut savoir que les séries Total War étaient très... Enfin, avant le Warhammer, c'était quand même assez élitiste, on va dire, dans le sens où vous allez vous retrouver avec des troupes qui vont être les mêmes, quelle que soit votre race. Que vous soyez un Romain ou un barbare, vous allez avoir des lanciers, miroirs, des épéistes. ils n'ont pas le même skin, mais ils font à peu près les mêmes choses. Il y avait très peu de différences. Et c'est là qu'arrive le Total War, avec des races totalement différentes, des façons de jouer totalement différentes, de la magie. Et après, tout ce qui fait un petit peu le charme des univers héroïques fantasy.
Et les étoiles dans tes yeux.
Oui,
et là, c'est vrai que le kiff.
Mais finalement, c'est un peu comme à l'époque où Warcraft 3 est sorti, ou Starcraft. C'est-à-dire qu'on était sur des jeux à la Age of Empires où c'était des matchs miroirs avec juste une unité dans chaque camp qui est différente.
Qui était différente, histoire de...
Voilà, les Égyptiens, ils ont, je sais pas, des...
Certains ont des chars, d'autres ont des catapultes. Alors
voilà, donc faut jouer là-dessus, ou sinon, vaut mieux prendre les combats. Quand soudainement, il y a plusieurs races disponibles avec des contres, des ordres de construction, etc., complètement différents.
Des façons de jouer
le gameplay
totalement différentes. Donc ce Total War se différencie très peu des autres dans son gameplay, si ce n'est effectivement ses races différentes qui demandent à être joué différemment. Qu'est-ce qu'il y a comme race jouable ? Donc vous pouvez jouer l'Empire, les humains, qui sont d'inspiration plutôt Renaissance, avec des troupiers, des canons, des chars à vapeur. Bon, ça fait partie des dernières unités du jeu.
Les Marines, quoi.
Quelques magiciens, comme toutes les races d'ailleurs. Vous avez ensuite les contes vampires, qui sont de fabuleux nécromanciens qui arrivent à créer assez facilement de grosses armées de zombies et de morts-vivants, avec pas mal d'unités, pas mal d'unités de monstres et beaucoup de magie. mais qui par contre, pour se différencier des autres, n'ont aucune unité de tir à distance. Donc sont obligés d'aller au corps à corps quasiment tout de suite.
Quoi, les vampires ?
Les contes vampires, ouais.
Les contes vampires.
Ensuite, vous avez les nains. Alors là, ça c'est le là, les costauds.
Ton petit péché mignon, quoi.
Ah, j'aime bien les nains. J'aime bien les nains, ils sont costauds, ils ont une très très bonne artillerie. Par contre, ils sont beaucoup moins nombreux que et beaucoup plus petits. Mais bon, ça tout le monde s'en doutait. Que les autres protagonistes. Vous avez enfin les armées du chaos, alors qui sont disponibles seulement en DLC, ou si vous avez préacheté le jeu, elles étaient offertes. Voilà. Viendront fin juillet les hommes bêtes, alors sous forme d'un DLC payant. Je vous le dis tout de suite.
Ouais,
et
c'est la politique de
vraisemblablement, les elfes et les hommes lézards suivront, mais également payants. Peut-être les bretoniens qui sont seulement jouables en bataille multijoueur au jour d'aujourd'hui.
Les combats, c'est toujours armée contre armée. Hein. Il y a pas, vous êtes toujours deux joueurs. Il n'y a pas des,
matchs à quatre, deux contre deux. Et
donc deux armées contre deux armées, c'est ça ?
Ouais.
Ok.
Qui seront alliées et sans aucune distinction, on peut mélanger tout type de factions ensemble. Ça, y a pas de problème. Et vous avez de toute façon, c'est un jeu qui est très 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 modé. Et vous pouvez trouver des modes sur internet qui vous permettent de jouer à 5 contre 5 quasiment. Mais là, par contre, il faut commencer à avoir des sacrées machines parce
pour
que
faire tourner toutes les
ça fait beaucoup de choses à calculer en même temps. Voilà, donc en termes de background, on suit le lore de Warhammer, bêtement. On se retrouve sur la map du jeu de plateau, avec les mêmes protagonistes. C'est très bien suivi, c'est très bien modélisé, c'est très sympa. Alors c'est un jeu qui est esthétiquement très très beau. Si t'avances un petit peu, bon, personne ne verra, mais si t'avances un petit peu, après il y a une deuxième partie de vidéo où on voit ça de plus près. Le jeu est vraiment très très beau, à tel point que je me surprends à sauvegarder beaucoup de mes batailles et à me les refaire en vue de près sans
l'interface. Passionné. J'ai vu 15 000 fois la vidéo.
Je sais exactement ce qui va se passer, mais voilà, le face à face entre un troll et un nain un peu costaud, ça fait toujours plaisir.
Oh la jouissance! Oh oui!
Chef de guerre!
Qu'est-ce qui faisait peur?
T'as des délires un peu bizarres quand même, je trouvais.
Tu parles de combat. Hein,
ah oui,
il n'y a pas de rapprochement à la fin du combat. Hein. donc tout est bien respecté. Donc les graphismes sont vraiment très très beaux. Sachant que ce que vous voyez là, c'est ce qu'on peut. On peut faire la bataille de cette distance là, vraiment très proche, avec des animations très bien faites. Quelque chose qui faisait peur à tout le monde, c'était l'insertion de la magie dans oui. Total War.
Parce que
jusqu'à présent, vous aviez des généraux bon, qui avaient quand même certains pouvoirs, mais qui étaient assez limités. En fait, vous aviez Jules César qui allait pousser un cri de ralliement pour rassembler ses troupes qui étaient en train de s'éparpiller, ou pour les booster dans leurs attaques pour un court moment. Sauf que là, maintenant, on a toujours un petit peu les mêmes sorts, mais avec l'ajout des boules de feu et autres joyeusetés magiques. Et ben c'est très bien géré, vous avez une petite jauge en début de combat sur laquelle vous pouvez parier pour en avoir plus ou moins si vous n'avez pas de chance en début de combat, qui va se remplir graduellement au fur et à mesure du combat, de manière à pas non plus rendre le combat inintéressant à coup de pilonnage de boules de feu à distance à 300 mètres. Et voilà, donc très bien géré, très, très bien intégré, avec toujours des beaux effets.
Et c'est les héros qui ont des pouvoirs ?
Oui. Alors en fait, vous avez trois types de... Vous avez les seigneurs. Il vous faut obligatoirement un seigneur pour avoir une armée. Vous ne pouvez pas diriger des troupes seules dans le jeu. Et
ça
après...
Tu le seigneur...
Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je pensais, ouais.
Ça fait partie du jeu des batailles, comme dans une vraie bataille à l'époque. Quand on tue le seigneur, les troupes perdent leur morale et en général s'enfuient. Ce qui peut être un bon adjectif contre certaines races. Bref. Sur quoi j'étais ?
Sur les seigneurs et après ?
Alors les seigneurs auxquels on peut adjoindre effectivement des héros qui sont soit de type combattant, soit de type magicien, effectivement. Voilà, ça ce sont les seuls personnages disponibles dans le jeu. Vous pouvez au fur et à mesure des combats récupérer un peu d'équipement magique qui tombe aléatoirement, plus quelques pièces vraiment spéciales mais qui sont que pour les héros légendaires qui font partie de l'histoire de Warhammer, qui sont en général les dirigeants de vos factions. Et là, vous avez des quêtes spécifiques avec des batailles spécifiques qui vous permettent d'obtenir des objets très très puissants. Des épées, des armures, etc., des talismans. Voilà.
Donc bah pour moi
c'est déjà
une
pas mal hein.
Totale réussite.
Oh.
Oh.
Faut bien le dire une fois de temps en temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Oui, je voulais aussi revenir. Donc vous avez effectivement les campagnes. Vous pouvez jouer la campagne avec toutes les races. Voilà, en mode difficile, ultra difficile, légendaire.
Ultra, ultra, ultra voilà. Difficile.
Je me casse le nez sur le difficile.
Ça c'est dit.
Et vous avez du multi en un cours. Donc bataille rapide. Ce sont des petites armées. C'est très court. Hein. Ça dure. Allez, 20 minutes si le mec se met à courir autour de la map pour pas se faire attraper, mais ça durera jamais plus. Vous pouvez faire de la grosse bataille customisée, en allant jusqu'aux capacités de votre PC, en fait, quasiment. Vous pouvez mettre 10 000 combattants de chaque côté, si ça tourne, tant mieux pour vous.
Les reliefs et les décors ont leur importance, ou c'est surtout la strat et la façon
dont tu gères? Non, c'est vraiment important. Tout est vraiment géré.
Il y a des marais, des trucs comme ça, des points d'eau, des forêts.
Les marais ralentissent la marche, la forêt permet de cacher certaines troupes. Le fait d'être sur une colline, en général, enfin surtout quand on a des armes de tir ou de l'artillerie, donne une position dominante et induit une supériorité face à l'adversaire.
Un bonus.
De même que si l'adversaire doit gravir la colline pour vous charger, ça vous donnera un bonus, enfin ou un malus pour lui plutôt.
D'accord, d'accord.
Etc. Non, c'est vraiment très très fouillé.
Et là, on regarde une petite vidéo, mais c'est des grandes armées. Mais le terrain me paraît très plat par rapport à Total War Arena, où forcément chaque joueur n'avait que 3 escouades. Mais du coup, on était vraiment, par exemple, au sein d'une ville, il y avait des champs où on pouvait se cacher, il y avait une petite montagne. Là, la map est beaucoup plus grande, beaucoup plus aplanie.
La map est beaucoup plus grande, mais par contre, elles sont souvent plus aplanies. Il y a quelques maps assez singulières avec une grande colline, une grande falaise.
C'est pour la visibilité.
Mais en général, les reliefs sont assez. Il faut pouvoir, oui. En général, les armées se déplacent groupées, pour une grande partie de l'armée en tout cas.
Ouais.
Et il faut quand même pouvoir manœuvrer.
Ouais, c'est vrai que
c'est compliqué de se balader sur un flanc de falaise avec une unité,
avec
les
escouades
les unes
pareil.
Derrière les autres.
Les transitions macro sont impressionnantes quand même.
Ouais. Ah, y a une possibilité de zoom avant-arrière. Démentiel quand même.
Avec les développeurs savent qu'ils ont un bon moteur, donc ils proposent énormément d'options de mise en scène pour revoir ces vidéos.
C'est dispo que sur PC, j'imagine, non ?
C'est uniquement sur PC. J'ai vérifié ce matin, j'ai eu un doute, mais ouais, c'est uniquement sur PC. Il n'y a jamais eu de portage d'aucun opus sur autre chose.
C'est dommage que ce soit pas plus grand public, que c'est des licences. Bon, Warhammer, c'est super cool. Déjà, ça rend, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup plus accessible.
Beaucoup plus attractif.
On pourrait tout à fait imaginer ça sur des licences comme Games of Thrones ou Lord of the Rings, pareil.
Ah, Games of Thrones, il y a eu 2 tentatives, mais.
Ça a loupé.
Fort infructueuse en termes de jeux vidéo.
Oui, en termes de jeux, ouais, bien sûr.
Mais voilà. Donc voilà, moi je suis enchanté. Après, on aime, on n'aime pas. C'est vraiment intéressant. Ça prend du temps. Moi, j'ai envie de m'investir dans le multi. J'ai fait quelques petites tentatives. Je vais pas me glorifier. Je me suis fait défoncer. Mais
ouais, tu joues face à des mecs qui ont 15 ans de Total War dans les pattes aussi.
C'est ça. Il y a quand même quelques commandes. Il n'y a pas une multitude de commandes. On pourrait voir ça plus compliqué. Après, en termes de reproches, parce qu'il faut quand même faire un petit reproche toujours. Moi, je trouve que ça manque d'infos en termes de bataille. Contrairement au Total War Arena qu'on avait, où à la fin de la bataille, on avait pas mal de stats différentes,
ouais.
Dont cette fameuse stat de Friendly Fire, hein,
oui.
Que tout le monde aimait bien.
Oh, regarde, j'ai un gros chiffre là, je suis premier.
Oui, et bah là, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le jeu. On a le nombre de tués, le nombre de personnes que chaque escouade a tué, vous avez le nombre de pertes totales dans chaque armée, et vous avez une petite jauge qui vous donne le rapport de force, mais ça va pas plus loin que ça.
Mais je pense qu'il limite peut-être même qu'il y avait plus de stats dans les autres jeux Total War, mais là, c'est un petit peu le pendant, pas arcade, mais ils ouvrent un petit peu la licence
mais
à des,
oui, rendre ça des mondes fantastiques pour tout le monde, effectivement.
Voilà.
Bon, après, ça vous empêche pas d'avoir toutes les stats de vos bonhommes pour les comparer avec les autres, etc. De faire, vous pourrez regarder sur internet si ça vous intéresse, de faire des petits essais, puisque vous pouvez configurer n'importe quelle bataille. Et on retrouve pas mal de vidéos sur internet où on voit qu'il y a 6000 archers gobelins face à 10 géants pour voir ce que ça fait.
Tu sais s'il y a une démo ou un truc comme ça qu'on pourrait essayer
Malheureusement, non, en termes de démo, non plus. J'ai jamais regardé s'il y avait une démo. Je pense pas.
Ok.
C'est un peu dommage.
Bon,
une petite bataille comme ça. Où,
bah, joie quand même.
Ouais.
En tout cas, première excursion de Creative Assembly dans les univers fantastiques. C'est couronné de succès pour la communauté. La communauté, ça leur plaît, même ceux qui sont les gros fans de simulation hardcore.
Alors, il y a un reproche qui est régulièrement fait, mais c'est pas forcément lié à comment. À ce partenariat avec Games Workshop, c'est que il y a pas eu de notable avancée dans le jeu ou grosse modification depuis Rome 2 et Attila, quoi. Et les joueurs commencent à dire que bon, c'est bien de sortir des jeux, ils sont toujours bien, mais il y a pas grand chose qui change, et bon,
c'est moins quelques chamboulements, quoi.
Ouais, quelques petites choses différentes. Il y avait eu des choses qui avaient été implémentées dans le Shogun 2. Il y avait les bateaux. Ça cassait pas trois pattes à un canard.
Moi, j'y connais rien, mais y a pas de dragon, y a pas de truc de aérien, y a pas de truc maritime, c'est que terrestre, quoi, en plus.
Ah si, y a des dragons.
Ouais.
Des trolls, des titans.
Il y a beaucoup de créatures monstrueuses, on va dire, qui sont pas forcément monstrueuses, mais dans ce goût-là, les dragons. Alors, les contes vampires en ont. Ce qui ressemble le plus à un dragon. Sinon, ça sert de monture en général. Ça sert de monture aux généraux.
Oui, mais c'est pas des. Ça vole quand même.
Ah oui, par contre, d'accord. Ça vole. Les combats aériens sont possibles entre généraux. Par contre, le général peut très bien se faire descendre aussi. Ça, c'est tout.
Je vais quand même aller regarder une ou deux vidéos parce que c'est quand même assez marrant.
Mais il y a pas mal de vidéos sympas qui tournent. Où on peut voir. Il y a pas mal de créatures monstrueuses. Qui sont sympas. Vous avez chez les orques, vous avez une araignée géante avec des gobelins perchés dessus, un petit peu comme un éléphant et son cornac. Mmh. Bon, beaucoup de trolls, d'ogres. Vous avez les géants qu'on peut retrouver chez les orques et le chaos. Très très grosse unité, très bien faite. Voilà, donc c'est à peu près tout.
C'est déjà pas mal.
En tout cas, c'est toujours l'année. Games Workshop, parce que là, Total War Arena vient de sortir. Warhammer, pardon. Mais là aussi, à l'E3, il y a le prochain Dawn of War qui a été annoncé. Donc, on est plus sur toujours de la stratégie, mais plus à petite échelle.
Oui.
Et c'est dans l'univers de Warhammer 40 000 et non pas Warhammer.
Et je crois qu'ils veulent revenir aux prémices de la série. Ça ressemblera beaucoup au premier, d'après ce que j'ai vu.
Le premier, je crois que c'était vraiment des.
Là, on était vraiment en stratégie. Non, c'est après où ça s'est transformé en petites escouades.
Le 1, c'était plus
le 1, on était vraiment dans le StarCraft avec des grosses batailles, quelques bâtiments à construire. Quelque chose de sympa.
Merci gros. On enchaîne sur un petit jeu. Il s'agit de Never Alone et c'est toi, Seb, qui va nous le présenter.
Oui, c'était Never Alone. Alors, il a déjà quelques mois déjà, il est sorti le 21 novembre 2014 sur PC, et puis quelques temps après sur PS4. C'est à peu près une quinzaine d'euros, on peut l'avoir pour une quinzaine d'euros. C'est une fable inuit, donc ça y est, inuit, ça vous dit plein de choses, les tempêtes, les blizzards, les tempêtes de neige. Et donc cette petite fable, ça parle en fait d'une fillette qui s'appelle Nuna et qui va rechercher de l'aide car son village a été détruit par le blizzard. Alors, au départ, c'est le blizzard qui bloque en fait les habitants dans leur village, donc ils peuvent plus chasser, donc ils vont mourir. Et quelques temps après, c'est carrément le village qui est détruit par une force mystérieuse, donc on ne connaît pas. C'est un jeu très basique, au niveau gameplay très basique, donc on passe un peu comme Inside ou comme Limbo, on va de gauche à droite. Et on se fait aider dès les premières minutes par un renard blanc qui va venir nous aider. Alors ça, c'est
de la 2.5D ou c'est de la full 3D?
C'est de la full. Hein.
C'est la question du jour.
Ouais, je sais, ça fait plusieurs fois que tu le dis. Moi, je pense que c'est de la full 3D. Mais c'est très beau. Alors, c'est une fable. Donc, on est en coopération. Ou alors, on peut jouer en mode solo et on contrôle les deux protagonistes, donc la fillette plus le renard. Ou alors, on peut jouer chacun une personne pour la fillette et l'autre pour le renard, et on doit aller le plus loin possible pour sauver en fait ce village et pour sauver les habitants.
C'est vrai que c'était très joli pour un jeu de 2014.
Oui, ouais, au même maintenant, en fait, ça passe très bien. On a envie d'aider cette fillette. Alors, j'ai pas dit, ça vient du studio Upper One Games, qui sont en fait des Américains, mais qui sont d'origine Inuit. Donc, ils avaient envie de faire passer en fait leur tradition dans un jeu. Ils se sont dit que jamais il y avait un jeu sur leur tradition, sur leur héritage, et ils se sont dit, bon, nous, personne ne le fait, nous, on va le faire. Et ils font passer en fait des séquences culturelles, c'est-à-dire que dès qu'on avance dans dans le jeu, on tombe des fois sur un hibou qui va qui va déverrouiller une notion en fait de la culture inuite. Donc ils vont nous parler comment on chasse dans leur tribu, comment ils ont une tradition très très marquée sur les forces de la nature. Donc accepter que l'homme n'est pas au sommet de l'échelle mondiale et animale, que il faut prendre exemple sur les animaux qui nous entourent. Donc il y a aussi
ils savent qu'ils sont dans l'erreur.
Non, bah j'espère que ça donne des bonnes pensées aux gens qui vont jouer. Et c'est très derrière ce côté village détruit et un petit peu froid dès le début, froid mais comme le paysage. Et ben on a envie de découvrir en fait ce peuple qui nous rend un petit peu notre côté enfantin et notre côté on a envie d'aimer en fait les autres. Voilà, ça peut être très basique, mais ça
on a envie d'aimer les autres.
Oui, on a envie d'aimer les autres derrière ce côté. Cette société terrible, en fait, ça nous fait un petit coup au cœur et qui est très très bon. Je voulais vous dire quoi d'autre ? Ah oui, au niveau du gameplay, alors très basique, ce que je vous ai dit, on va de gauche à droite, on saute sur les murs, on se fait aider par le renard qui fait apparaître en fait des esprits en fait sur l'écran. Et puis c'est tout, pratiquement tout.
Comment tu l'as découvert ce jeu ?
Après Total War.
Oui, Total War, le truc qui a rien à voir.
J'ai besoin de
temps avant de dormir.
Tout simplement, alors il faut.
T'as envie d'aimer les autres avec Total War ou comment ça se passe ?
Ouais.
Voilà, le cri du troll. Non, c'est sur le PlayStation Store en fait. De temps en temps, il y a des réducs, des soldes. Et puis il était présenté moins cher. Et donc ça me plaisait bien. C'était le côté culturel avec ces 24 séquences en fait sur l'ethnie inuite. Et je me suis dit allez, autant faire un jeu très en 5-6 heures de temps. On va apprendre des choses. Voilà.
Tu as joué en solo ou avec ta copine?
Les deux. En solo, le premier run en solo et le deuxième en coopération.
On peut le faire en coopération à deux joueurs, genre un joueur joue le renard et tout.
Exactement.
Génial.
Et donc il faut si on a un qui meurt sur
ou
les deux
copine.
Si le renard ou si la fillette meurt, c'est game over. Donc il faut vraiment passer les épreuves.
Même si le renard meurt.
Et si le renard meurt, tu es mort directement. Donc
enfin, je veux dire, c'est pas Dark Souls, tu peux recommencer.
Oui, on recommence et en plus
c'est
la sauvegarde est très proche, donc on n'a pas la moitié de l'histoire recommencée. Alors dès le début on est pris un petit peu de stress parce que en fait on a des ours qui nous pourchassent. On a des éléments, on a le blizzard en fait qui nous fait reculer. Donc il y a plein de. On parlait tout à l'heure dans certains jeux que la gravité prend de l'importance ou la façon de jouer. Là il y en a beaucoup. Donc par exemple, pour sauter, s'il y a un grand fossé, il faut attendre le coup de vent, le blizzard, pour pouvoir aller plus haut et passer l'épreuve. Donc c'est
comme dans Assassin's Creed.
ouais, peut-être. Mais c'est une très belle fable. C'est une très belle fable.
Et dis-moi, Seb, comment est-ce que c'est raconté toute l'atmosphère inuite, tout le contexte inuite. Il y a des vidéos.
On a des séquences live. Donc vraiment avec des gens, ils sont allés se documenter directement dans les tribus en Alaska. Et donc à chaque fois qu'on avance dans le jeu, on tombe sur un petit hibou dans un coin. Donc il faut les découvrir parce que tout n'est pas en ligne droite. Il faut des fois aller à droite, à gauche, prendre des raccourcis puis les découvrir. On a un hibou et ça nous déverrouille directement une séquence culturelle. Donc on appuie sur le pavé tactile de la PS4 et on va directement sur les séquences audio.
Ça me rappelle, tu sais, c'est Soldat Inconnu aussi, qui était un peu fait pareil avec des séquences
exactement. Et ça donne un moment de pause parce qu'on va toujours vite, on essaye de découvrir des choses et des moments de séquences où on bloque et on se regarde une petite séquence, mais qui dure pas longtemps. C'est pas du Metal Gear où on est parti pour 15 minutes ou une demi-heure de séquence vidéo.
Tu dis Metal Gear, toi ?
Ouais, je dis Metal Gear, moi.
Wesh.
Je dis Metal Gear, mais Metal Gear.
Notre amitié est terminée.
Je dis Metal Gear.
MGS.
Ou MGS, voilà, MGS. Et donc là, ça dure 3 minutes, 3-4 minutes. On nous parle de l'histoire des fables qu'on raconte, parce que les histoires en tradition orale d'il y a un siècle ou deux siècles, ils se racontent ça autour d'une cheminée. Ça donne de l'importance énormément. Et on parlait tout à l'heure dans Inside où ça peut faire réfléchir sur notre société, choses comme ça. Et ben, c'est exactement la même chose pour Never Alone, c'est qu'on découvre des choses et on se dit on est en train de perdre pied dans la société, sur des choses qui pourraient être très simples.
Dans la société.
Dans la société, et c'est un bon, voilà, une bonne bouffée d'air.
Pour voilà. Aimer les gens, de façon.
C'est pas trop répétitif ?
Si, un petit peu. Si.
Ah, quand c'est... même, tu l'as
ouais. C'est... Oui. Il y a des moments où c'est un petit peu répétitif. On n'a pas des grands moments où il y a un twist, où on change le gameplay, où c'est un petit peu toujours la même chose.
Il y a un peu des monstres et tout ça ? Ou
oui,
c'est que
oui,
des,
oui,
on des a... phases de plateforme c'est on rencontre de des gens
Oui, on rencontre en fait.
Spoil pas, mais non, c'est juste ouais. Parce que la majorité des images qu'on avait déjà vues du jeu,
c'est à peu près toujours
effectivement la petite fille, le renard et la banquise, quoi.
Non, il y a les. Alors, il y a aussi des petits moments de séquence où on nous raconte un petit peu l'histoire, parce que comme c'est basé sur un conte, il faut que le conte avance, et donc il y a des choses qui vont se passer.
D'accord.
Mais c'est aussi, c'est vrai que c'est un peu répétitif et c'est un peu basique, mais comme on a envie, en fait, comme évidemment tous ces jeux narratifs, on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir comment ça se termine, et ben on le fait et on continue, et ça, et à la fin du jeu, ça, on garde un très bon souvenir en fait de ce soft. On se dit, ben pour les 15€, et ben on a passé un agréable moment et on a appris des choses, et donc ça c'est important.
Ça c'est vrai, c'est important. Et comme le soft est sorti en 2014, on le rappelle, tu as regardé ce que faisait l'actualité du studio?
Pas du
ou...
tout. Non, je suis pas allé chercher s'ils étaient en cours, s'il y avait un projet de développement. Ou s'il y avait un autre jeu qui était sorti, pas
d'accord.
Du tout.
D'accord. Donc, okay.
Donc je peux pas dire, je suis pas allé chercher. Donc en tout cas une très belle prise, un très bon jeu qu'il faut faire si on aime le genre, évidemment, comme disait Gros tout à l'heure. Il faut aimer le genre.
Bon, ça en fait des plateformers pour aujourd'hui.
Mais oui, ça en fait pas mal. Hein, ouais, ça fait pas mal.
Qu'est-ce qui te prend de chroniquer un jeu aussi récent ?
Oui, la prochaine fois j'essaye de faire un jeu de 2016. Voilà, exactement.
Ou un jeu de ta mignesse.
De novembre, mais il faut attendre novembre là. Et gros, ne t'inquiète pas, je ferai une news dessus.
Yes,
yes, ouais.
Bon, on va y jouer. Merci. Et puis vous aussi, vous allez y jouer.
Voilà,
on va passer sur une chronique rapide, petite.
Oui, voilà, très rapide et concis et précis.
Voilà, très bien. Never Alone, donc disponible et parfois en promo.
PC, PS4, pour le moment à 15€, mais on peut, je pense, l'avoir moins cher si on attend les soldes.
Allez, c'est pas sur tablette aussi.
On continue notre retour.
En tout cas, moi j'ai trouvé PC et PS4.
Okay. Voilà. On continue notre retour sur les jeux sortis voilà quelques mois et on va parler de Mirror Edge Catalyst.
Oui, Mirror Edge Catalyst.
Je fais ce petit jingle parce qu'il s'agit d'un feedback. C'est pas vraiment une chronique. C'est-à-dire que tu veux juste revenir dessus.
Je me suis dit, c'est la musique du jeu. Je me suis dit, c'est.
On en avait déjà parlé ?
Non.
Non, mais bon, tu vas pas faire une. Tu voulais juste
faire un
petit retour.
Ouais, juste un peu rapide.
Un jeu de.
Donc, voilà, Mirror Edge Catalyst qui est sorti mi-mai, si je ne m'abuse. Développé par DICE, édité par Electronic Arts, le retour de Faith Connor qu'on attendait tous depuis 8 ans. Elle nous revient dans un jeu à monde ouvert, toujours à base de parcours. Donc on était tous les fans, moi y compris, on était tous à bloc, on n'en pouvait plus. On était tous excités l'année dernière quand ils ont annoncé qu'il y aura un nouveau Mirror Edge.
C'est-à-dire, ça fait des années que tout le monde demande un 2, mais en même temps, le premier s'était mal vendu. On pensait pas qu'il. Ça faisait partie de ces. Comme Beyond Good and Evil 2 ou ce genre de choses, de ces jeux attendus par tous, mais jamais développés.
Il est en développement. Il n'est pas sorti,
oui, bien sûr.
Mirror Edge fait partie de ces jeux qui n'ont pas eu un gros succès commercial, mais ceux qui ont joué, ils ont été marqués durablement et ils ont kiffé.
Ouais,
c'est
beaucoup
pour ça
aimé,
qu'il y a eu toute cette aura autour de ce jeu-là, un peu comme Beyond Good and Evil, et qu'il était très demandé. Donc là, il nous est revenu. Voilà, c'est un reboot. Enfin, pas tout à fait un reboot. C'est pas tout à fait un reboot parce que.
C'est une préquelle, non ?
Hein ?
C'est pas une préquelle ?
Non. Non, c'est on
Attends,
repart.
Qui suivait l'histoire, c'est bon.
Ouais, l'histoire était
arrêtez,
pas terrible.
On comprenait rien. Quoi.
Là, ça c'est peut-être parce que t'as des difficultés à comprendre.
Il faut des vidéos, moi.
Dixit le mec qui achète Evolve. Tu sais.
Et attention, on est deux.
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça y est, tu m'as fait perdre le fil. Non, en fait.
C'est un reboot.
C'est un reboot à ce détail près que la trame narrative n'est pas la même. On garde le même univers, mais on reprend à zéro avec une autre histoire.
Ah, c'est une dystopie du premier, quoi.
Ouais, on peut dire ça comme ça, si tu veux.
J'aime pas quand
donc
on parle des mots que je
repart
connais pas.
On repart sur des bases de gameplay qui sont similaires, c'est-à-dire beaucoup de parcours,
Les Yamakasi, quoi.
Voilà. Voilà, donc on joue les Yamakasi, sauf que là, on a un monde ouvert.
Ah, c'est carrément.
Donc, en théorie... En théorie, c'est le pied. On est libre de faire ce qu'on veut, de s'éclater, de faire des sauts dans tous les coins.
Ah, le point négatif, c'est...
Le point négatif du monde ouvert, c'est qu'on est sur les toits. C'est-à-dire que pour se passer d'un toit à l'autre, c'est compliqué.
Mais ça me rappelle les...
Généralement, quand on essaie de sauter, on tombe, on meurt.
Ça me rappelle les assassins, ça. On avait dit exactement la même chose. Vas-y, voilà. Vas-y, continue. Ouais.
Tu veux dire qu'il y a les chemins préétablis ou quoi?
Il y a des passerelles entre les bâtiments.
T'es obligé de suivre...
Ouais, sur lesquels on est obligé de passer. Voies, c'est-à-dire que pendant une première partie du jeu, les deux premiers tiers, on passe souvent par ces passerelles, on passe souvent au même endroit.
Ce qui manque, c'est un bon jetpack, quoi.
Ce qui manque, ça vient après. Un peu plus tard dans le jeu, on a un grappin. Mais on peut pas l'utiliser n'importe où, on est obligé de le mettre à certains points d'ancrage.
Ni n'importe où, les caméras de surveillance, je crois.
Ni n'importe comment.
Ouais, le phase de gameplay de grappin, c'est juste n'importe quoi.
Bah, en fait,
c'est carrément pas soupe, quoi.
C'est
ultra, ultra exigeant, quoi.
Le gameplay grappin ?
Ouais.
Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a des points déterminés où on peut l'utiliser. C'est tout. Une fois qu'on arrive à repérer ces points-là, ça va, c'est facile.
C'est on n'est pas Spider-Man non plus, quoi.
Non, je crois qu'il n'est pas foufou, le grappin.
Il y a des points d'accroche qui sont disposés sur la map.
C'est les caméras de surveillance, là, auxquelles tu t'accroches.
Ouais, je sais plus si c'est des caméras de surveillance, mais c'est un truc dans ce style-là. En fait, quand on arrive à un point où on peut utiliser le grappin, tout simplement, il apparaît en rouge. Voilà, on appuie sur la touche.
C'est pas aussi libre que Batman avec son grappin où tu peux quand même t'accrocher un petit peu partout.
Batman, on peut s'accrocher partout. C'est pas rien à voir avec Batman.
C'est aussi peut-être pour pas rendre le jeu soudainement trop facile. Ce serait une sorte de Deus Ex Machina où tout est accessible.
En fait, le grappin, il est là surtout pour vous permettre d'utiliser des raccourcis.
Oui.
Pour accéder à de nouvelles voies.
Alors, la ville.
Est-ce que c'est toujours parce que j'ai vu des images et c'est un peu toujours la même chose?
On est dans le. Oui, je vais là-dessus. On est dans le même univers que dans le premier, c'est-à-dire une cité de verre, limite de glace, donc très
épurée.
Très épurée, grosse dominance de blanc.
Ouais.
Voilà, dans les airs. Quand on a quelques séquences, quelques passages où on va au sol.
Ah, oui.
Où on va au sol, enfin au moins.
Comme dans le premier d'ailleurs.
Ce qui me paraît être le sol. Au moins. Parce qu'on sait jamais très bien où on est.
Si tu tapes avec le pied, si ça résiste, c'est que c'est du sol, mec. Hein.
Voilà. Et là, on a un peu plus de couleurs. On va dans des décors un peu souterrains aussi. Donc, il y a un peu de variation au niveau des décors. Le problème, il n'est pas là. Le problème du jeu, il vient de deux points. L'histoire qui est toujours bof.
Niais. Yeah.
Enfin, 3 points, pas exactement.
Peut-être que tu l'as pas comprise, mec.
Non, je l'ai comprise, mais elle est extrêmement prévisible, en fait.
Ouais.
Donc, pas de surprise.
Est-ce qu'il y a un rapport avec ce titre génial, Catalyst? Est-ce qu'ils vendent des cartes 3D à un moment, ou comment ça se passe?
Alors, spoil. Non, en fait.
Alors, je suis peut-être complètement con, j'ai peut-être du mal à comprendre, comme tu dis, mais j'ai pas vu le rapport, en fait.
Excuse-moi, et le deuxième mauvais point, tu disais?
Non, en fait, il y en a 3. Le deuxième mauvais point, c'est la gestion du monde ouvert, qui est pas terrible. En fait, ils ont voulu remplir le monde ouvert.
Ouais, de quêtes FedEx, de machin.
De collectibles. Pire encore, du collectif. Juste.
Celui-là, dans ce genre de jeu, les quêtes FedEx, c'est normal, ça fait partie du gameplay, quoi.
Oui, il y a des quêtes FedEx, mais aussi, mais c'est surtout les objets à collecter qui, c'est une horreur. La carte, elle vous les vomit au visage.
C'est qui édite? C'est EA toujours.
C'est Electronic Arts, ouais. Donc, la gestion du monde ouvert est assez triste, on va dire ça comme ça, parce qu'il est vide. Il y a les personnages. La plupart, ils réagissent pas à votre présence.
Les personnes qui nettoient au sol, les bâtiments.
Ouais, voilà, il y a des gens, ils sont dans une pièce, ils font leur truc. Vous arrivez, vous défoncez la porte, vous courez.
Entrez, c'est ouvert.
Vous défoncez l'autre. Les mecs, ils s'en foutent, ils continuent à vivre leur vie. Ça, c'est assez triste.
Ils font partie du décor.
Voilà. Il y a d'autres gens, ceux qui vous donnent des quêtes, ben, ils sont là, ils vous attendent, en fait. Vous passez devant, ils disent ouais, salut, ça va, bien, j'ai un truc à te faire. Vous partez, mais le mec qui reste là, il s'en fout.
C'est pas Skyrim, quoi.
Voilà. Quand on t'écoute, on dirait que c'est un jeu mal fini, quoi, qui a été développé à la va-vite.
C'est un jeu.
Peut-être t'as un terrain de jeu, mais.
Ouais, c'est un terrain de jeu,
mais pas vivant, quoi.
Non, c'est pas très vivant, voilà, exactement. Il y a les quêtes principales qui sont pour la plupart assez intéressantes, l'air de rien. Mais sorti de ça, c'est pas génial. Et le troisième point négatif, c'est les combats. Alors, les systèmes de combat, ils ont essayé de creuser un peu plus par rapport au premier Mirror Edge, parce que le premier Mirror Edge, on tapait avec un bouton, et après, il y avait une notion de timing, où suivant quand
ça ralentissait,
on tapait, on pouvait désarmer l'ennemi.
Ou passer entre les jambes, je crois, ou des choses
non,
comme ça.
Non, passer entre les jambes, non, il n'y avait pas de notion de timing.
Faire une glissade ou...
Faire des glissades, il y a certains mouvements comme ça, qui étaient pas mal.
Mais
grosso modo, on appuyait sur un bouton, et on lui dégommait sa gueule. Clairement, c'était ça.
On pouvait les endormir, mais on pouvait pas les tuer.
Là, c'est pareil, on peut pas les tuer. Ben si, dans le premier Mirror Edge, si, on pouvait les tuer.
On pouvait prendre leur arme.
On prenait leur arme, souvent on avait quoi ? Un chargeur, un demi-chargeur, et après on la jetait.
C'était...
Voilà.
Et là, je crois que tu peux même plus prendre l'arme.
Parce qu'il y a plus d'armes à prendre.
Ah bon ?
Voilà, et en fait...
Ça, c'est une milice, dis donc.
C'est des mauvais points, maintenant.
Vous avez 5 types d'ennemis, au total.
C'est pas beaucoup, hein.
Vous en avez un...
Ceux qui plantent les doigts dans les yeux, ceux qui...
Vous en avez un qui vous tire à dessus, mais vous pouvez pas lui prendre son arme.
Voilà. C'est un robot.
Grosso modo, c'est ça. Les combats, ils ont essayé de creuser un peu plus en nous permettant de taper vers un côté pour le faire tomber par-dessus une rambarde, ce genre de petites choses-là. Des petites choses qui sont sympas en soi. Le problème, c'est que le jeu n'est pas étudié pour. Donc les combats sont pas...
Ouais, tu sens que c'est, ça a été rajouté, mais...
C'est pas le but du jeu. Le but premier du jeu, c'est de faire le parcours. Et c'est une excellente simulation de parcours. Franchement.
Et au sujet du parcours, est-ce que tout l'aspect communautaire a été enrichi, par exemple ? Je crois que comme c'est un monde ouvert, tu peux définir un run et après l'envoyer en ligne pour que les gens... Travaille ton run sur les checkpoints que tu as placés pour essayer d'améliorer ton temps ou des choses comme ça.
Oui, tu peux faire des choses comme ça.
T'en as fait un peu en ligne ou...
Ouais, j'en ai essayé un ou deux.
Ça t'a pas plus bluffé que ça.
Non, je sais pas.
Ça a pas augmenté la durée de vie pour toi.
C'est pas ça qui m'a...
T'as échaudé quoi.
Qui m'a échaudé. Voilà.
Si on revient au début de ton feedback, tu disais que toi t'étais hyper content que la licence revienne, d'autant plus que le jeu avait marqué les joueurs du premier, qu'on n'était pas sûr, vu le résultat commerciaux du premier, qu'il y aurait une suite. Là, DICE, qui fait quand même d'autres choses, hein, qui a d'autres choses sur le chaudron entre les Battlefield, les Star Wars, etc., ils se permettent quand même de remettre d'être un petit peu généreux entre guillemets avec la fanbase. Toi c'est le jeu qui correspondait du coup à tes attentes où t'as été déçu et sur quel point?
Alors moi qui fais le jeu en ligne droite, en fait la quête principale en ligne droite, ce passage là j'ai kiffé. En fait il y a quelques passages de combat où on se retrouve coincé dans une arène où là on court, on tourne en rond, on tend pas les ennemis pour pas se faire dégommer soi-même.
Ouais.
Ça c'est un peu chiant, mais hormis ces passages là, la quête principale est plaisante à défaut d'être grandiose, parce qu'il y a quand même des moments assez épiques. Pour le reste, est-ce qu'il y a autour, clairement c'est... Voilà, une fois que j'ai fait la quête principale, j'ai arrêté quoi.
En fait, tu le conseilles pas, en fait, comme jeu. C'est pas si on doit mettre 60€, 50 ou 60€, parce que c'est chaque et tout.
60€ peut-être pas, mais ça reste un jeu. Bon,
il y a un lien avec
pas exceptionnel.
Il y a un lien avec le premier ou pas, avec celui qui est sorti il y a quelques années.
Un peu comme mon ex, c'est un reboot.
C'est
juste un reboot. C'est juste un lien.
Non, c'est en fait comme le jeu, il a 8 ans. Il voulait que les joueurs qui n'ont pas fait le premier
fassent celui-là.
Moi, je pensais que le problème résidait dans l'open world, en fait.
C'est une partie du problème. C'est une partie du problème parce qu'il est vide, il est mort. Pas de vie.
Ça vaut pas la mini NES, quoi. On est d'accord. Pour 60 boules,
60€, la console.
Voilà. Mais
bon, Patoun, merci. Ok,
ça reste un jeu. Ça reste un jeu tout à fait correct.
En grosse promo. C'est pas une déception quand même. Ça aurait pu être un loupé. Ils auraient pu essayer de bouleverser complètement la licence pour faire un truc qui plaise à un plus grand nombre. Et finalement, ils sont quand même restés dans l'esprit original de la saga.
Ouais, ils auraient peut-être pu faire un plus petit jeu, du coup, je sais pas. Comme Far Cry Blood Dragon, tu vois, un petit truc comme ça, une espèce d'add-on
plus de risques.
Plutôt que de livrer un jeu à plus grande échelle, mais qui est un peu vide de son contenu.
Pour moi, ils auraient mieux fait de pas faire de monde ouvert.
Ouais. Mais c'est ce qui faisait fantasmer la communauté en même temps.
Ouais, mais au final.
Mais c'est raté, oui. Ouais, c'est raté, il n'y a pas l'engagement et l'ambition.
Et c'est marrant parce qu'il y avait beaucoup d'attentes sur ce deuxième opus qui n'était pas proposé, qui n'était pas annoncé en développement. Et le jour où ils sont décidés à le développement, ça a été rapide. Et j'ai l'impression qu'ils sont partis sur le postulat. Bon, on a une seule idée, ça va être un monde ouvert. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup plus d'identité sur ce deuxième opus par rapport au premier. Enfin, il n'y a rien de. Il y a un monde ouvert, mais visuellement, c'est assez. Ça ressemble beaucoup. Bon, à part le grappin. Sinon le running simulator
il est un peu amélioré. La partie running sur le premier Mirror Edge, elle était déjà archi complète, elle était très complète,
très bien.
Il y avait plus grand chose à rajouter, hein.
Ouais.
C'est ce qu'ils ont rajouté, moi je vois pas ce qu'ils auraient pu rajouter de plus.
C'est la seule chose dont je me souviens d'ailleurs. Moi, les combats, les choses dans le premier, ça m'a pas marqué, mais combats, c'était vraiment tous ces déplacements, ces petits trucs un peu fous où on s'y attendait pas.
En fait, dans le premier Mirror Edge, les combats, on passait notre temps à les fuir parce que c'était possible.
En plus, oui.
Et un des problèmes, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que là, il y a des combats, on peut pas les suivre. Et par moments, c'est des combats, en arène par vagues successives.
Ouais, d'accord.
Donc là, on peut pas les esquiver, on est obligé de se les cogner.
C'est un matraquage de boutons, là.
Et par moments, c'est chiant.
Patoul, merci, on va te laisser terminer ta tartine de Nutella que t'as préparé il y a un quart d'heure.
C'est vrai. Et ils auraient quand même mieux fait de se concentrer à nous faire un rallye Sport Challenge 3, hein, les mecs de DICE. Hein.
C'est pas DICE là.
Si, c'est DICE.
Si, c'est DICE. DICE.
C'est DICE.
C'est les mecs de Battlefield.
Ouais, bah, non, ouais, bah, toi, t'as dormi toi pendant un quart d'heure.
Je vous dis au début, je vois que t'écoutes, ça fait plaisir.
J'ai parlé de
ça aurait pu être une question du quiz. Et on passe sur le quiz.
Let's get ready to.
Ça va saigner.
Et c'est parti, yeah, cette semaine, enfin ce mois-ci plutôt, c'est moi qui me colle au quiz. Je m'excuse par avance, c'est pas magique.
C'est ta première.
Je pense.
T'as l'air heureux.
Quel RTS.
Tu vas te louper.
Alors, il n'y a pas réellement de thème, c'était censé être orienté stratégie, mais c'est un peu compliqué.
Après, comme on a le conquérant,
donc il y aura un peu de tout. Première question, quel est l'éditeur de Dota 2?
Attends, c'est direct comme ça là. Attends, il y a rien.
Valve, GP Valve.
Okay. Quelqu'un tient les points?
Non, mais ça c'était le prologue. C'était le prologue du quiz.
C'est par c'est individuel. Alors, c'est
il y a
sûr.
Pas des groupes.
Tu gardes ta petite sonnette.
Parce que il faut qu'il y ait un groupe parce que
j'ai déjà eu du mal à faire le quiz. Alors, envisager qu'il y ait des groupes et tout, non, j'ai pas.
Les règles, tout ça, rien. Tu poses des questions. Voilà.
J'ai quand même écrit 2-3 petits trucs tout à l'heure. Jeu développé par Westwood Studio entre 1995 et 2003, divisé en 3 séries distinctes.
C'est dommage, faut dire ton nom. Command & Conquer, Red Alert.
Je l'ai dit en plus tout à l'heure.
C'est dommage.
Vas-y, Seb.
Le jeu met en scène deux factions, le Node et le GDI, dans une guerre sans merci pour une ressource appelée le Tiberium. Ça veut dire quoi, le GDI?
Le monde de défense internationale.
What?
J'allais
dire. Comment est-ce que tu connais ça, toi?
Parce que j'y ai fait. C'était à l'époque, j'avais fait...
Mandaté par les Nations Unies.
Ouais.
Dans
il a joué l'Intoxave, il disait sur la stratégie, je vais pas y arriver.
Je connais pas du tout ce genre de jeu.
C'est le seul jeu de stratégie que j'ai fait à l'époque. C'était Command & Conquer et les Alertes Rouges.
Moi, je suis bien tombé alors.
Le mec qui était champion d'Île-de-France de stratégie, il a fait une défaite et il s'est mis à Nintendo derrière.
Miguel aussi, il jouait Kassak.
Non, je préfère franchement.
Tiberian Sun, etc. Voilà, t'as joué à tout ça. Ouais.
Alors, ça, c'est pour voir.
Avec les moissonneuses.
Les moissonneuses étaient sur console aussi.
Ouais.
Pour voir si vous m'écoutez un peu hein, quand je fais une chronique. Non. Studio ayant développé Sins of a Solar Empire.
Quel quoi?
Quel studio a développé Sins of a Solar Empire?
Vous avez suivi l'euro sinon?
Non mais j'avoue c'est un peu...
Un studio polonais?
Je peux regarder, mais
check.
C'est possible.
Je tente tout ce que je peux.
Ironclad Games, pardon. Ils ont fait que
ICG.
Ça. De toute façon.
Ils ont fait que ça, je les aurais été après.
Le premier RTS entièrement en 3D.
Entièrement en 3D.
GP Total Annihilation.
Non.
Bon, je passe mon tour.
Dark Reign.
Non.
Supreme.
Attends, là on fait un vide.
C'est pas Warhammer Dawn of War?
Non. Moi, bon, c'est Warzone 2100.
Oh putain! Où tu pouvais créer tes propres unités, etc.
La langue,
c'était trop bien, Warzone.
Ah, c'était trop bien, je l'allais le dire.
Voilà.
Là t'avais lâché, je pense, le monde du STR.
Je regrette qu'il n'y ait pas Vladimir avec moi, je pourrais pleurer dans son épaule.
Warzone 2100, excellent.
Mais attention, question de rapidité.
Vous pouvez passer des chenilles, rajouter des.
Quelle est la couleur du pantalon de Mario Bros?
GP bleu.
Bien.
Oh le doute.
J'y reviens pas d'avoir hésité.
Moi aussi j'ai hésité, il y a un truc.
J'ai beaucoup hésité aussi.
Là, il y avait pas toute chemise bleue, Seb chemise rouge, là il y avait un duel.
C'est un truc de psy ça, c'est pas un quiz quoi.
Ensuite, alors ça c'est bon, j'en profite pour faire passer un petit message.
Ah, je croyais un coucou à ma famille.
Meilleur jeu recyclé de ces dernières années où même les personnages ont été récupérés dans les différents titres de l'éditeur. Ce jeu est un MOBA.
Heroes of the Storm.
Bien joué.
Ils font de l'anti-quiz entre eux, tu sais. Avec les private.
Mais
et tout.
Ouais, c'est je vous l'ai dit, les gars, ça y est.
Meilleur jeu où on a une safe depuis 4 ans qui dort.
Non, je n'ai jamais évoqué ça sur le TS ou quoi que ce soit.
Platoon, Raid, on se prend un café pendant ce temps.
On va se réveiller.
Non, mais c'est accessible, arrêtez.
Quel est le nom européen du jeu Biohazard?
Platoon.
Ouais, c'est Resident
Evil. Mais c'est vrai qu'il a dit GP et tout, quoi. Il a tout enchaîné.
Il a tout balancé.
Oh la vache.
Quand on dit son pseudo, on laisse la réponse derrière, on coupe pas la parole.
Donc,
bordel.
J'ai coupé.
Dans quel jeu peut-on voir des chocobos?
Final Fantasy.
Ouais.
J'ai un point quand même.
Je te laisse attribuer les points, moi ça va trop vite, j'arrive.
0,5.
C'est quoi ces questions de noob? Tu sais, t'as 10 questions
super
RTS super chaudes et après t'as 2 questions de noob pour nous faire participer.
Pour dire qu'on est vivant, tu vois, on les réveille.
Bon, je savais pas trop comment attribuer
en anglais.
Je savais pas trop comment attribuer, j'ai dit 0,5.
Un petit peu de oldies. Combien de gemmes rouges pour obtenir la fin spéciale dans Aladdin sur Super NES?
Oh la vache.
Aucune...
What?
Aladdin.
C'est STR ça?
Pas tout, ne ça? Ou pas au hasard?
Non.
Red.
Un peu moins.
Plus ou moins?
50.
Un peu plus.
Sébastopol, 60.
Un peu plus.
Oh merde.
Dernière tentative pour GP.
GP.
Oui,
85.
C'est
trop
long,
GP. Eh non, c'était 70.
Oh purée!
Des gemmes rouges.
Et ouais. Qu'est-ce que t'avais, tu dis après? T'avais 70 gemmes rouges et je passais quoi?
Et c'est pour débloquer une fin spéciale.
C'était quoi la fin spéciale?
Bah, je sais pas, j'y ai jamais joué moi.
Oh là, mais attends.
Moi je prends des infos, j'essaie de les vérifier, mais après je veux pas trop pratiquer.
Fais ton quiz.com.
Hi, it's David Perry. Thank you for playing my game.
Ouais.
Quel est le personnage le plus connu, un personnage de jeu vidéo bien sûr, au Japon?
Sébastopol.
Ah, vas-y.
Mario.
Je te laisse. Tout ça.
Oh putain. Tu m'aurais dit non,
c'est une grosse question.
Il a mélangé,
On a des questions.
Et les questions sont super faciles. Ouais, bon.
Y a ta maman qui écoute ou quoi? C'est un truc.
Ça m'étonnerait. série de jeux débutée en 1998, prenant place dans un univers médiéval puis renaissance pour finir dans un univers futuriste.
P. Total War.
Et non. Jeu de gestion par excellence où le but premier est de satisfaire sa population pour pouvoir s'étendre.
Batoon. Ah non,
ouais. Bien joué.
Oh là là, quelle ambiance, tonnerre de Dieu.
Enfin un point mérité quoi.
Sale gosse.
Pac-Man a été créé par...
Merde. Il apparaît
dans l'éditeur, tu veux
l'éditeur,
le...
hein, pas le la personne.
Namco. Red Namco.
Ouais. Bien joué.
Namco.
Tout le monde a marqué au moins un point. Bon, j'ai rempli le contrat.
C'est... Oh voilà. C'est horrible.
Ah, le pauvre point quoi.
Quel est le format des jeux de la GameCube?
GP, c'est des
Red mini CD.
Non.
C'est des G-ROM. GD-ROM.
Non, ça c'est Dreamcast.
C'est tout simple en fait.
Mini DVD.
C'est ça.
Ah oui,
mini DVD.
Presque.
Oui.
Voilà. J'ai mes 2 points. Je peux mourir. Oh là,
ça c'est fait.
C'était
la dernière.
Non, c'était la dernière. Après, j'ai... Bon, non, après, c'est nul.
Oh là là.
La défaite du quiz.
Ça
me saoule.
Ça me saoule, je l'ai fait juste avant de venir.
Bien, très bien.
Bon, du coup, c'est GP qui a gagné. T'as gagné l'un des plus beaux quiz. Hein,
on peut dire que c'était ton meilleur, gros. C'était
ouais,
ton premier.
Mon premier et mon meilleur. Non, j'en avais fait un pour notre spécial.
Bière.
On fera au montage hein, pour le spécial.
Fais-en sur la bière dans le jeu vidéo.
Ah oui, c'est vrai.
Tu peux pas faire la bière dans le jeu vidéo sans déconner.
Un bêtisier, un making-of à la fin du.
Parce qu'il y en a pas tant que ça.
Ouais, il doit y en avoir quand même sous forme médiévale et tout.
Bien chercher.
Ça, on pourrait mettre ça à la fin de l'épisode, tu vois.
Bon, bref, on est en train de dealer nos idées.
Bon, en tout cas, on passe. Merci, gros.
On a appris des choses quand même, hein, surtout sur la couleur du pantalon.
Ouais. Voilà. Ah oui, entre le bleu et le rouge, c'est bleu. George!
What else? Est-ce que certains veulent présenter des petits objets culturels, des petites bizarreries culturelles? Patoun, de quoi vas-tu nous parler ce mois-ci? T'es pas prêt?
Bah, il termine sa... Oui, c'est la 17e tartine de Nutella.
Ouais, voilà, il faut bien se nourrir. Hein. C'est...
T'as raison.
Ça prend beaucoup d'énergie, un podcast.
Nourris son homme.
On va parler d'une BD de Kiriko Nananan. C'est comme ça.
T'es plus un enfant, arrête. Là.
Voilà, ça s'appelle Strawberry Shortcakes. Donc c'est ça raconte l'histoire de quatre
c'est une BD
demoiselles.
Ou c'est un manga.
C'est un manga. Ouais. Ça raconte l'histoire de quatre demoiselles tokyoïtes et leur rapport à l'amour. Voilà.
C'est un romantique en fait. Hein.
Laisse-le parler de son truc, ce
masque.
Voilà, j'ai acheté ça à tout hasard. Hein. Je savais pas du tout ce que c'était.
Peut-être avec le plus 18 sur AC4.
Ouais, ou c'est la couverture avec une femme un peu dénudée.
Non, il n'y a pas de plus 18.
Ça va tout de suite attirer l'œil, la couverture rose.
Il n'est pas question de sexe. Moi, ce qui m'a attiré l'œil, c'est la phrase d'introduction.
Dans le micro.
Ce qui m'a attiré l'œil, c'est la phrase d'introduction qui est là.
La découverte d'essence.
Il m'a tout mis.
Non, on se fait traiter d'abruti. Moi, j'aime bien me faire traiter d'abruti au début.
Et
donc,
t'as des trucs bizarres.
Mais chacun ses trucs. Ah, chacun, ouais, voilà. Pas de problème.
Une petite BD fort sympathique. Si ce n'est son défaut, c'est qu'elle se disperse un peu trop entre les différents personnages. Mmh. On aurait beaucoup gagné.
Les quatre héroïnes, c'est ça.
Voilà. Mmh. Parce que leur histoire, à part deux d'entre elles qui sont colocs, elles n'ont rien à voir les autres histoires, hein, les unes entre elles. Donc finalement, on se disperse pour pas grand-chose.
Elle se mêle pas à la fin ou quoi? C'est le premier tome ou c'est une histoire finie?
Non, c'est un one shot.
Sans mauvais jeu de mots. Hein.
J'ai même pas fait.
Bien ça. Évidemment.
Non, mais tu peux nous en dire un peu plus. C'est quoi l'intérêt en fait? Parce que c'est pas un shoujo. C'est j'imagine c'est plutôt.
C'est l'histoire quotidienne ou c'est?
Oui, c'est l'histoire adulte en fait. Voilà, c'est plus pour adultes, c'est vraiment le
quotidien de quatre tokyoïtes.
De quatre tokyoïtes dans leur relation amoureuse, comment elles arrivent à gérer ça. Il y en a une qui sort d'une relation difficile, qui se trouve un mec, une autre qui arrive pas à tomber amoureuse, et comment elles vivent ça, comment elles.
Elles ont quel âge à peu près?
Fin de vingtaine, début de trentaine.
Non, mais elles sont mariées maintenant, laisse tomber.
D'accord.
C'est trop tard, fallait être là à la sortie du bouquin.
Donc, sympathique pour ceux qui aiment bien ce genre de bande dessinée.
C'est chez qui?
Chez Casterman.
D'accord.
Voilà. Notamment, il y a une petite scène qui, moi, m'a marqué.
Croustillante.
C'est un dialogue surréaliste où elles font un parallèle entre l'amour et le caca.
Ah, ça, c'est très japonais, ça.
Et c'est étonnamment pertinent, en fait. Je ne dirais pas plus.
Super,
mais,
ça fait rêver.
Mais c'est assez surréaliste et il y a des petites scènes comme ça qui sont plutôt bien trouvées.
Bah, écoute,
je pense que tu as des pratiques sexuelles qui ne m'intéressent pas, mais...
Sinon, ça va.
Ouais, ça a été
non,
là,
il n'est pas question de scatophilie, je précise.
Tu sais, il n'y a pas longtemps, GP nous a sorti un quiz sur la mort des enfants en jeu vidéo.
Oui, c'est vrai, oui, tout le monde s'en rappelle.
Très pertinent. Absolument. Merci Patoun. Red, est-ce que t'as un what else?
Ouais, rapidement, je sais pas trop comment je vous en parlais, mais j'ai été à un salon il y a la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je sais plus, qui s'appelle Viva Technology Startup Connect à Paris. C'était Porte de Versailles et c'était un regroupement des startups françaises principalement, mais aussi internationales autour des nouvelles technologies. C'est la première fois que ça a lieu en France et c'était un rendez-vous assez important.
C'est un truc ouvert au grand public?
Ouais, tout à fait. Okay. Tout à fait. Tu pouvais acheter ta petite place et puis bénéficier de ces présentations par plein de petites startups et aussi des grosses entreprises comme des banques. Il y avait Google qui était là. Il y avait JC Deco, certaines marques de luxe. Donc, en fait, ce qui était intéressant, c'est justement dans un seul espace de rencontrer des concepteurs, des marques, des plus petits développeurs et peu importe le média ou peu importe le
propos.
le propos, il va y avoir de la médecine, de la communication, de la presse, du jeu, etc. Tout le monde était mélangé autour des nouvelles technologies de l'avenir. Donc évidemment, il y avait pas mal de réalité virtuelle. Il y avait l'attraction de des casinos, leur nom m'échappe, mais c'est pas grave, mais une attraction en réalité virtuelle qui a été développée par des casinos dont on avait entendu parler. Il y avait le HTC Vive, évidemment, des Oculus un petit peu à droite à gauche. J'ai pas vu de PlayStation VR, mais c'était l'occasion d'essayer pas mal d'expériences à ce niveau-là, des drones, et de voir ça sur une dans plein de secteurs d'activité différents. À titre personnel, j'ai été très satisfait de la manifestation. C'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs, parce que évidemment, elle est déjà passée, mais je pense que ça a été un succès. Donc, je vous invite à vous renseigner pour celle qui aura lieu l'année prochaine. C'est plutôt sympa de pouvoir mettre la main sur des technos comme ça, d'essayer plein de trucs et de rencontrer les devs. Après, c'était temps, parce que vous imaginez bien que je suis parti très client de toute cette effervescence et de toutes ces technologies, et j'ai trouvé ça un petit peu comme on a un aperçu global de toutes les technologies qui vont nous arriver dessus ces prochaines années. Ça m'a fait un peu réfléchir, et là-dessus je suis un petit peu plus pas dire négatif, mais
réservé.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, je sais pas comment.
T'as une vision du futur
pas très belle.
Assez.
J'ai pas été convaincu de toutes les expériences. Il y a vraiment plein de choses. Il y a des sièges, par exemple, dans lesquels on s'allonge et qui ont des vibrations en 3D, donc des vibrations sur tout l'ensemble de votre dos et de votre corps, pour faire percevoir la musique différemment, par exemple, pour faire percevoir la musique en plus d'avoir
tout
le casque.
Tout ne va pas être démocratisé. Ça, c'est juste une vision, en fait.
Sont que des choses qui existent. Il n'y a pas de prototype. C'est déjà des choses qui sont commercialisées. Il y avait un projet français, je crois, d'un jeune étudiant d'Orléans qui avait été repris par Google, qui est un réveil olfactif, où au lieu de se faire réveiller par un son, on se fait réveiller par des odeurs.
Pourquoi
avec des
pas.
Cartouches.
Ouais.
Donc il y a pas mal de trucs comme ça, tout est un peu tourné.
Je me demande quel genre d'odeur est susceptible de réveiller une personne.
Je peux prendre cet exemple-là, il y a vraiment des milliers, mais en fait ils vendent le réveil, je ne sais plus exactement combien, à 50 ou 60 euros, et tu pars avec des cartouches, et il y avait 7 parfums, tu avais croissant, café, genre un truc qui te rappelle la mer.
Cigarette froide,
comme si tu te réveillais sur la plage. Non, tu ne peux pas mettre n'importe quelle odeur, c'est des odeurs qui sont développées avec des grands parfumeurs.
Et ça doit nous réveiller normalement.
Et ça, non, c'est pas que ça doit, ça réveille. C'est déjà prouvé, c'est testé, etc. Et t'as une alarme de sécurité.
Ouais.
Mais t'as des cartouches. Le tout est relativement écologique, tout est recyclable, etc. Et au lieu de te faire,
c'est bien meilleur pour
le cerveau, pour le corps, parce que tu te fais réveiller vraiment en douceur, sans son, comme ça, ça te réveille pendant 3 minutes.
Ça,
et si vraiment t'es flemmard ou que t'as tes boules caisses, t'as une alarme de sécurité qui se déclenche 3 minutes après.
Si t'es un peu malade.
Non, mais je vais pas rentrer en détail. Encore une fois, je vous invite à vous renseigner. Sur ce salon donc, qui s'appelle Viva Technologies, qui aura lieu de nouveau, je crois, l'année prochaine, parce que c'était quand même quelque chose de. C'était quand même un succès. Ouais. Moi, j'ai essayé plein de trucs, beaucoup de réalité virtuelle, et j'ai été un petit peu surpris de l'aspect court-termiste de l'ensemble des innovations qui ont été présentées.
C'est-à-dire court-termiste ? Qui sont disponibles à plus ou moins court terme.
T'as beaucoup de gens qui font ce que j'appelle moi de la sous-technique ou de la technique abordable. C'est-à-dire, par exemple, j'ai vu des gens qui ont développé des systèmes comme le Leap Motion, mais à partir d'un téléphone portable, par exemple. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des technologies déjà existantes, mais qui en font des variations pour une approche plus économique, plus ceci, plus cela. Et puis tu as beaucoup de gens qui travaillent sur le futur, sur des choses qui sont pas encore publiques. Et ce qui est marrant, c'est comme là tu vois vraiment tous les domaines, de la banque à l'armée, l'armée, il n'y avait pas l'armée qui était là, mais de l'entertainment à la médecine, au luxe et au commerce et à d'autres choses. Tu as quand même une vision un peu globale, et je trouve que autant tous ces gens, tous ces cerveaux créatifs ont envie de proposer des choses nouvelles, autant toutes les inventions sont, à mon sens, très loin d'être justifiées.
Tu connais les dates pour l'année prochaine ou pas?
Non, pas du tout. mais tout est à base, il y a quand même beaucoup de choses à base de data, hein. C'est-à-dire que l'idée principale, c'est d'en savoir toujours plus sur nous pour nous vendre plus de choses qui sont susceptibles de nous intéresser ou de nous protéger ou de voilà. Et j'étais loin d'être convaincu de tout. Mais c'était intéressant quand même. Et c'est pas cher en plus.
Très bien, ça s'appelait comment ?
Pour la troisième fois, Viva Technologies Startup Connect.
Merci Red. Seb, est-ce que tu as...
Oui, j'ai un petit Wattel. Ça, c'est un manga qui s'appelle... Bah, c'est Arsène Lupin, notre fleuron cambrioleur français. Et c'est dessiné par Takashi Morita. Et c'est l'œuvre évidemment originale de Maurice Leblanc qui a écrit en fait ce personnage. Et j'ai été vraiment étonné. C'est un très très bon manga. Très bien écrit. Alors, il y en a déjà 4 qui sont déjà publiés. Et le premier, c'est pas basé sur la littérature, c'est basé sur une pièce de théâtre qui est super bien. C'est comment, évidemment, c'est du Arsène Lupin, donc c'est volé en fait des peintures, volé des œuvres d'art. Et il nous explique en fait comment bien voler une œuvre d'art dans le premier, dans le tome 1. Donc c'est très très bien.
Comment
voilà.
Bien voler, c'est du Uncharted, quoi.
C'est du Uncharted un petit peu, voilà, exactement.
Histoire de braquage, quoi.
Et donc le premier, c'est le diadème de la princesse de Lamballe. Et donc c'est.
Tu es d'accord que voler, c'est mal.
Oh, évidemment, voler, c'est mal. Et oui, je suis d'accord avec toi. Et donc c'est très bien, les dessins sont très bien faits, très rapides, dynamiques, et c'est une bonne pioche, comme moi je le dis souvent.
C'est quoi un dessin rapide ?
C'est que c'est dynamique, ça va D'accord. Très vite. On n'est pas dans du contemplatif pendant 50 pages, où il se passe toujours plein de choses, le coup de crayon est bien, moi j'aime bien, ça défile très vite, on connaît très rapidement les personnages qui sont développés dès les premières pages, et on y va.
La série est terminée ?
Non, je crois pas, à mon avis. Ça doit être. Il y en a 4 qui sont déjà publiés. Moi, j'ai déjà acheté les 4. Mmh. Et c'est des one-shot, en fait, entre guillemets. Ils sont indépendants les uns des autres.
D'accord.
Donc, on peut acheter le 4 si on a envie. On regarde un petit peu les premières pages. Et puis, on sait à peu près de quoi ça va parler durant les quelques dizaines de pages. Donc, c'est très bon si vous aimez un petit peu le côté enquête policière, détective, tout ça. Ben, ça peut très facilement vous plaire.
C'est ce qui était un peu ton cas, parce que tu nous avais déjà parlé de manga qui était sur ce thème. Donc
voilà, c'est ça. Je suis un très, très bon partisan.
Polar de manga, quoi.
Polar, ouais. Polar, enquête, ça me fascine.
Et c'est qui ce manga ?
Chez Kurokawa.
Kurokawa.
Et bien, je me rends compte qu'en fait, j'ai beaucoup de mangas de chez eux. Donc, peut-être que ça me pointe moi personnellement.
Ouais.
Ça me pointe moi personnellement.
Merci Seb, bah écoutez,
toi t'as rien à dire, JB ?
Non, ce mois-ci j'en ai pas d'autres.
Oh, d'habitude t'as toujours plein de choses, t'en as toujours 2-3 en réserve.
Je vais juste glisser un petit mot rapidement sur une série qui est sortie hier sur Netflix, Stranger Things. J'ai vu les premiers épisodes, c'est vraiment pas mal. Allez, jetez un œil.
D'accord, on m'en a parlé, je vais regarder aussi.
C'est sorti hier sur Netflix, c'est-à-dire que toute la saison est sortie sur Netflix.
Toute la saison. Il y a 8 épisodes, j'ai vu les 4 premiers et jusqu'à présent ça les boîtes.
D'accord.
Très bien. Bon, bah voilà, c'est la fin de l'épisode, on va pouvoir rentrer chez nous.
Je crois qu'on est allé vite, hein, aujourd'hui.
Oui, on a fait 1h40, c'est raisonnable.
Très
convenable.
Petit joueur.
Eh ben écoutez, la musique de fin, on sait pas encore ce qu'on va mettre, on vous dira ça en début d'épisode prochain.
Ça va être super.
C'est du rétro.
Super. Ouais. Merci à tous, on se retrouve le mois prochain, et d'ici là, bonnes vacances.
Ciao, ciao.
Ciao à tous. Au revoir.